Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
C'est un petit peu insultant et qu'on se sent méprisé par l'éducation nationale et par l'État. On est vraiment déterminé et on ira jusqu'au bout.
Nouvelle journée de mobilisation partout en France et au même moment, le projet de réforme des retraites adopté en Conseil des ministres. L'âge d'équilibre reste dans le texte, redit le gouvernement.
Et on en sait plus ce soir sur le coût et les effets concrets de la future réforme sur les générations à venir. Les détails dans une seconde.
Il projetait des attentats imminents contre la base navale de Brest notamment. Les 7 suspects arrêtés lundi sont présentés à la justice. Nos informations à suivre.
C'est une enquête Europe 1. En effet, 40 millions de Chinois confinés. La muraille, grande muraille fermée à son tour.
Un hôpital va être construit en 10 jours à Wuhan pour prendre en charge les malades du coronavirus.
Dans ce journal également, les inquiétudes autour de la 5G. Quel impact sur notre santé ?
Le gouvernement a mélangé vitesse et précipitation en lançant ses enchères sans évaluation sanitaire.
Et puis les favoris bousculés à l'Open d'Australie de tennis. Serena Williams éliminée et Roger Federer s'est fait peur.
C'était incroyable. L'intensité et la cadence de Millman a gagné le 100e match ici en Australie de cette façon-là. Forcément, je ne vais jamais oublier.
La bourse de Paris finit en hausse ce soir de 0,88% à 6024 points.
Bonsoir Anissa. Temps ce week-end.
Alors pour demain, un peu de pluie au bord de la Méditerranée et au bord de l'océan. Ailleurs, c'est une vraie journée d'hiver qui vous attend. Je vous donne tous les détails près de chez vous à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Le mouvement reste massif, affirment les syndicats qui étaient donc dans la rue à nouveau aujourd'hui, au moment où le Conseil des ministres adoptait la réforme des retraites. C'est la 7e journée nationale depuis le début du mouvement. Petit regain de mobilisation si on regarde les chiffres communiqués par les préfectures, même s'ils restent bien en deçà de ceux du mois de décembre. 9000 personnes à Lyon, 8000 à Marseille, 7500 à Bordeaux. Pas encore de chiffres pour Paris. La CGT, elle, revendique 1 million 3 de personnes partout en France, 400 000 dans la capitale. C'est là que vous avez suivi le cortège, Jean-Jacques Héry, un cortège qui s'est dispersé dans le calme ce soir.
Oui, avec un très long cortège qui s'est étiré lentement, tranquillement, sous un soleil d'hiver. Depuis République jusqu'ici, place de la Concorde, la foule était souvent bigarrée, souriante, mais toujours déterminée. Il y avait une très grande diversité de manifestants, des avocats venus en robe, des gilets jaunes, des blouses blanches, et puis aussi beaucoup d'enseignants, comme Pierre, professeur d'histoire géo, venu de Melun, pour dire non à la réforme.
Actuellement, la retraite pour les enseignants est calculée à partir des salaires des 6 meilleurs mois, alors qu'avec le système par points, ça va être calculé sur l'ensemble de la carrière, donc ça va prendre en compte les salaires du début de carrière qui sont extrêmement faibles pour les enseignants. Donc ça va faire une perte d'environ 30% des pensions, alors qu'elles sont déjà basses, ce qui pour nous est scandaleux. Je trouve que c'est un petit peu insultant et qu'on se sent méprisé par l'éducation nationale et par l'État. On est vraiment déterminé et on ira jusqu'au bout.
Mais pour aller jusqu'au bout, il nous faut des sous, explique Amar. Alors cet agent de la RATP récolte des fonds pour la CGT le long du parcours.
Bon, on sait que ça ne va pas rembourser nos jours des grèves qui sont parties. C'est trop dur pour certains. Il y en a qui ont des crédits, il y en a qui ont 4 gosses. On va arriver à un certain moment qu'on ne peut plus faire des grèves. Ou d'autres gens, j'espère qu'ils vont venir nous prendre le relais. Après, nous, on reprend un peu de force. On revient dans le bataille. J'espère tout public, privé, qui vient nous rejoindre. Parce qu'on fait le même combat pour tout le monde.
L'enjeu maintenant pour des manifestants qui ne veulent rien lâcher face à un gouvernement qui, lui, ne veut rien céder, sera donc de définir de nouvelles formes d'action, de nouvelles modalités de mobilisation, alors que l'avant-projet de loi sur la réforme des retraites a été adopté ce matin au Conseil des ministres.
Jean-Jacques Héry depuis la place de la Concorde à Paris. Un chiffre chez les enseignants, 10 à 15% de grévistes selon le ministère de l'Éducation nationale.
Et les syndicats appellent déjà une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera mercredi prochain sans la CFE-CGC qui, elle, suspend ses actions.
Pendant ce temps, donc, le projet de réforme des retraites a été adopté en Conseil des ministres. Il va donc être transmis aux députés qui commenceront à l'examiner dès le début du mois de février. L'âge pivot de 64 ans a été retiré, mais l'idée d'un âge d'équilibre, elle, est bien maintenue, elle est mentionnée même à 40 reprises dans le texte.
Cette réforme des retraites qui nous interroge donc plus encore avec des questions sur nos futures retraites, et bien on a ce soir quelques éléments nouveaux.
Oui, avec cette étude d'impact qui a été rendue publique. Bonsoir Olivier Samin.
Bonsoir.
Étude qui porte sur le coût de la réforme et ses effets concrets. C'est un document qui fait près de 1000 pages. Qu'est-ce qu'on en retient ?
Eh bien d'abord que le système universel va corriger massivement, c'est le mot employé par le gouvernement, va corriger massivement les inégalités entre les retraités. L'étude d'impact prend l'exemple de la génération des personnes nées en 1980. Parmi elles, les 25% de retraités les plus modestes verront leur pension augmenter de 30% par rapport au système actuel, grâce notamment au minimum de pension qui sera porté à 1 000 euros, à l'élargissement des personnes éligibles à la pénibilité, ou encore à la réforme des droits familiaux qui, dit le gouvernement, sera plus favorable aux mères de famille. D'ailleurs, dit l'étude d'impact, le montant des pensions des femmes sera amélioré de 6% pour la génération née en 1980 et de 13% pour celle née en 1990.
Quant à l'âge d'équilibre qui sera instauré dans le futur système, Olivier, quelles seront ses conséquences sur les choix de départ à la retraite ?
Eh bien, dans l'étude d'impact, l'hypothèse qui est retenue, c'est celle d'un âge d'équilibre à 65 ans à l'horizon 2037. Horizon qui correspond à la date à laquelle la première génération concernée par la réforme, celle née en 1975, arrivera à l'âge de la retraite. L'âge d'équilibre, vous en connaissez le principe, votre pension est minorée si vous partez avant et elle est majorée si vous partez après. Que se passera-t-il avec un âge d'équilibre à 65 ans ? 50% des personnes ne modifieront pas leur âge de départ, dit l'étude, 30% l'avanceront et à l'inverse, 20% le reculeront.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
On retient aussi ce soir les propos d'Emmanuel Macron qui dénonce la radicalité de certains blocages.
Aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature ! Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence.
Emmanuel Macron, micro de nos confrères de Radio J. On en reparle avec les grandes voix à 18h30, le chef de l'État qui était prolixe hein, dans l'avion du retour. Donc.
Et puis comme attendu, Ségolène Royal a été formellement démise de ses fonctions aujourd'hui d'ambassadrice des pôles, décision actée par le Conseil des ministres.
Il est 18h07 sur Europe 1, la suite du journal Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
On en sait plus ce soir sur les 7 suspects arrêtés dans le Finistère, comme nous vous le révélions. D'ailleurs, dès lundi, ils préparaient un attentat.
Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
Ils sont en ce moment présentés à un juge pour être mis en examen. Et vous avez des informations sur les cibles qu'ils comptaient viser.
Oui, leur projet terroriste, c'était de mener une attaque multiple, commettre plusieurs attentats, notamment à Brest, contre au moins 2 cibles, selon nos informations. D'un côté, l'arsenal de Brest, la base navale militaire, et de l'autre, les festivités du Nouvel An chinois, dont le défilé doit avoir lieu demain dans les rues de la ville. Leur passage à l'acte était donc possiblement imminent, mais les enquêteurs restent prudents sur ce point, car ni armes ni explosifs n'ont été retrouvés en perquisition, mais les suspects auraient cherché à s'en procurer. D'ailleurs, ils avaient bien téléchargé sur Internet des modes d'emploi pour confectionner de la matière explosive ou du poison. Les policiers ont aussi retrouvé des documents de propagande islamiste et surtout des allégeances au nouveau chef du groupe État islamique, indice qui les conforte dans l'hypothèse d'une action très prochaine. 7 hommes sont donc en cours de présentation au juge antiterroriste. Le plus jeune est un ado de 16 ans, le plus âgé à 38 ans. Et le principal suspect est un réfugié né en Syrie, arrivé en France en 2015, soupçonné d'avoir appartenu à Daesh. Il était fiché S, étroitement surveillé par les services de renseignement. C'est lui qui aurait fédéré une demi-douzaine de personnes radicalisées autour de lui. Le parquet national antiterroriste a requis l'incarcération provisoire de tous ces suspects.
Les informations de Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Un hôpital construit en urgence en 10 jours seulement. On en parle avec mon invité à 18h20. Course contre la montre en Chine pour contenir le coronavirus avec ce soir la suspicion d'un cas à Bordeaux.
Et puis les favoris bousculés à l'Open d'Australie. Roger Federer revient de loin.
2 heures d'info, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
La Chine prend des mesures de plus en plus drastiques contre le coronavirus. Plus de 40 millions d'habitants sont désormais confinés.
Oui, 13 villes ont pris des mesures similaires. Suspension de tous les moyens de transport. La muraille de Chine ferme à son tour aux visiteurs. Et à Wuhan, le berceau de l'épidémie, un hôpital dédié est déjà en construction, en urgence. Il va sortir de terre en l'espace de 10 jours seulement.
Alors en France, on n'en est pas du tout là. Aucun malade n'a été identifié à ce stade. Mais attention, un premier cas suspect est sous surveillance à Bordeaux. Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir Nathalie. Oui, alors il faut être vraiment très prudent. On parle pour l'instant d'une suspicion de contamination et rien d'autre pour le moment. L'homme en question est actuellement en observation au CHU de Bordeaux. Il a été pris en charge hier soir par SOS Médecins, un patient qui se plaint de fièvre et de toux. Originaire de Chine, il revenait tout juste d'un voyage à Wuhan, berceau de l'épidémie, aujourd'hui mis en quarantaine. Le médecin ne prend aucun risque. Il met un masque en donnant aux malades et prévient l'hôpital de préparer une salle de consultation en isolement absolu. Pour justement éviter toute contamination en France, des mesures préventives sont mises en place, notamment dans les aéroports. À Orly et Roissy, on se tient prêt. Des messages sont diffusés dans tous les avions en provenance de Chine. Dans les couloirs avant la police aux frontières, des affiches expliquent en français et en chinois l'épidémie et ses symptômes. Des équipes médicales sont spécialisées et peuvent également intervenir dès la sortie de l'avion en cas de demande des autorités de santé.
Pierre Herbulot, merci.
Une fusillade. Aujourd'hui, en Allemagne, 6 morts et 2 blessés graves dans une petite ville près de Stuttgart. Le tireur a été interpellé.
Et selon les médias allemands, le suspect et les victimes faisaient partie de la même famille. Et puis aux États-Unis, on va surveiller une image. Dans les minutes qui viennent, Donald Trump va participer à une marche de protestation contre le droit à l'avortement à Washington. Du jamais vu, le président plus que jamais en campagne auprès de son électorat. Xavier Yvon nous raconte dans le journal de 19h.
Ah, il a fait un pas de plus, hein, Donald Trump. Il y a 2 ans, c'était par message vidéo. Cette fois, il y est. C'est le futur de nos téléphones portables. Le débit ultra rapide grâce à la 5G qui doit commencer à se déployer dans les mois prochains.
Oui, les opérateurs sont sur les rangs pour obtenir les nouvelles fréquences. Mais la 5G suscite aussi des inquiétudes, des interrogations sur son potentiel impact sur l'environnement ou sur notre santé. 2 ONG réclament un moratoire. Elle lance une pétition. Écoutez Stéphane Kerkhoff, délégué général d'Agir pour l'environnement.
Aujourd'hui, on est dans le grand flou. On sait juste que les lieux où les riverains vont être exposés à plus de 6 volts par mètre vont être multipliés par 8. Donc ça signifie potentiellement une exposition grandissante du grand public et une multiplication par 3 du nombre d'antennes relais.
En termes de conséquences sur la santé, qu'est-ce que vous craignez ?
Ça peut aller de maux de tête, saignement de nez, palpitations, insomnie, toute une variété d'effets qui ont été constatés avec les premières générations de téléphonie mobile. Malheureusement, sur la 5G, on augmente encore en gamme de fréquences et ce n'est toujours pas évalué. Par contre, on sait une chose, c'est que l'exposition va croître significativement et que le gouvernement a mélangé vitesse et précipitation en lançant ses enchères sans évaluation sanitaire.
Un propos recueilli par Virginie Salmen pour Europe 1.
Le tennis à l'Open d'Australie avec quelques coups de tonnerre hein, quand même aujourd'hui à Melbourne. Les favoris qui vacillent.
Ouais, une journée pleine de surprises. Bonsoir Corinne Boulou.
Bonsoir.
Alors il y a des gros noms qui sont tombés, hein, on va y venir. Mmh. Roger Federer, lui est passé, mais alors de justesse.
Oui, et à voir l'explosion de joie du clan Federer dans les tribunes après 4 heures d'un bras de fer de haute intensité. On se dit qu'effectivement, l'idée de la défaite commençait à faire son chemin. La faute à l'Australien John Millman, vaillant combattant de 31 ans, qui a fait vaciller Roger Federer avant de craquer finalement dans le super tie-break du 5e set. À 38 ans, le Suisse s'offre une 100e victoire inoubliable, comme il l'a confié à notre correspondant à Melbourne, George Homsey.
C'était incroyable. L'intensité et la cadence de Millman, pour moi, c'était important de trouver des solutions. Et j'ai essayé de les trouver tout le temps. Par moments, j'avais l'impression, ok, je checkais les choses, mais pour finir, il a pu remettre une couche et continuer à bien jouer, je veux dire. Et c'était vraiment son mérite de me pousser quasiment à la défaite. Bah, je suis déçu pour lui, forcément très content pour moi. C'était un match pour les mémoires, pour moi en tout cas. Gagner le 100e match ici en Australie de cette façon-là, forcément je ne vais jamais oublier.
Si Federer met le cap sur les 8e de finale, ce n'est pas le cas du grec Tsitsipas, finaliste l'an passé, éliminé dès le 3e tour par le Canadien Raonic. Dans le tableau féminin, 2 surprises. C'est fini pour l'américaine Serena Williams, éliminée par une chinoise, 29e mondiale. Et la tenante du titre, la japonaise Naomi Osaka, s'est fait surprendre par la pépite américaine de 15 ans, Corrie Gauff, qui dispute son premier Open d'Australie.
Corinne Boulou, merci. On suivra la nuit prochaine Gaël Monfils.
Oui, face au Letton Ernest Gulbis, issu des qualifications.
Voilà, on croise les doigts pour lui.
C'était fou quand même, Federer éternel.
Ouais.
Hein.
Ah, là, Corinne.
Merci à vous, Sébastien. Le retour dans un quart d'heure. Et du côté du temps, merci pour l'info. Et du côté du temps, Anissa, couvert dans le sud.
Oui, Nathalie, avec encore demain sur le Languedoc-Roussillon et jusque sur les Bouches-du-Rhône, un ciel couvert avec même quelques gouttes de pluie dans la journée. Sur la la Corse, le temps est sec avec des éclaircies possibles dans l'après-midi. À l'ouest également, hein, la pluie va se montrer. À l'ouest, sur la Bretagne, sur les pays de la Loire et la Vendée, les nuages sont très nombreux demain matin avec donc de la pluie demain après-midi. Et partout ailleurs, c'est un temps sec, un vrai temps d'hiver avec du soleil, des passages nuageux et des températures fraîches. Attention tout de même dans le nord-est, attention aux brumes et aux brouillards matinaux. Des brumes qui vont quand même résister, qui seront assez tenaces dans l'après-midi. Les températures, moins 4 à Charleville-Mézières, moins 2 à Lille, moins 1 à Clermont-Ferrand demain matin, 2 pour Limoges, Saint-Étienne et Paris, 8 à Marseille et au meilleur de la journée, nous aurons 6 degrés à Lille, 8 pour Nancy et Paris, 10 à La Rochelle et un beau 15 degrés pour Toulon. Un mot rapide sur la journée de dimanche. Eh bien, ça sera encore de la pluie sur la Bretagne dimanche, de la pluie sur le sud-est, hein, donc les Bouches-du-Rhône jusqu'à la vallée du Rhône et partout ailleurs. Un ciel bien plus clair et bien plus ensoleillé. Donc voilà, à part les deux extrémités, c'est plutôt calme et ensoleillé dimanche.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec votre invité.
Et la Chine qui retient son souffle depuis l'apparition du coronavirus, qui prend d'ailleurs des mesures drastiques, on l'a dit, pour tenter de contenir l'épidémie. La ville de Wuhan, épicentre du virus, est désormais coupée du monde. Dans un instant, je serai en ligne avec un Français. Il s'y trouve en ce moment même, il y vit. Quel climat règne-t-il dans cette ville de 11 millions d'habitants? Un témoignage à ne pas manquer, c'est sur Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, direction tout de suite la Chine. Face à l'épidémie du coronavirus, les autorités prennent des mesures drastiques. La ville où est apparu le virus est désormais placée en quarantaine. Avec vous, en ligne ce soir, Nathalie, Philippe, un Français habitant de la ville.
Bonsoir Philippe Usan.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Wuhan, cette métropole chinoise au cœur de l'épidémie de coronavirus. Depuis hier, la ville et sa région centre-Chine sont de facto en quarantaine. Vu de France, cela semble être la psychose. Qu'en est-il exactement ?
Psychose, non. Vu d'ici, ce n'est pas la psychose, mais on va dire que c'est assez inquiétant. Les gens ne s'affolent pas comme on pourrait le sous-entendre, mais sont quand même très inquiets.
Plus de 40 millions d'habitants se voient interdits de quitter le secteur. C'est-à-dire, comment ça se traduit? Vous êtes confinés chez vous?
Les gens, oui, restent chez eux. C'est des instructions qui sont données par le gouvernement chinois. Très peu de gens sortent. Les commerces sont fermés. Les administrations sont fermées. Les écoles sont fermées, les restaurants, beaucoup sont fermés. Il n'y a plus de consommation au niveau restaurant, les bars et tout ça.
Est-ce que vous, précisément, vous avez essayé, ou est-ce qu'on a dans votre entourage, essayé de rentrer en France, de quitter tout au moins la région ?
Totalement impossible.
C'est-à-dire ?
Totalement impossible. C'est tout, d'un sens, l'aéroport est fermé, les gares sont fermées et bloquées. Donc, on peut aller à la gare, mais on ne passera pas. Il n'y a pas de train et c'est contrôlé par la police.
De quelle manière c'est contrôlé par la police? Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour tenter de sortir?
Toutes les portes sont bloquées par les services de police. Les péages d'autoroute sont bloqués par les services de police, sont fermés et sont contrôlés par les services de police. Donc, c'est vraiment une quarantaine.
Et sur les routes, vous nous dites qu'il faut quoi? Il faut un document pour pouvoir sortir de la ville? Je ne sais pas, un document officiel par exemple, c'est ça qui permettrait de sortir?
Ah ben voilà, il n'y a qu'un document officiel, une raison vraiment, vraiment valable qui permettrait de pouvoir sortir via le péage de l'autoroute.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous, sortir de votre domicile, comment pouvez-vous le faire? Dans quelles conditions?
Bah, les consignes, hein, c'est ne pas rester chez soi, ne pas sortir, limiter vraiment au maximum les sorties obligatoires. En cas de doute, de fièvre ou de problème pulmonaire, aller à l'hôpital pour faire contrôler et sortir avec masque et surtout bien se laver les mains ou les désinfecter.
Concrètement, quels sont les messages délivrés par les autorités à la population et évoluent-ils d'heure en heure ?
Ça n'évolue pas, disons, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent par les réseaux sociaux. Maintenant, ça n'évolue pas directement par le biais des annonces gouvernementales. chacun fait un peu ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas non plus totalitaire. C'est chacun fait ce qu'il veut, mais les gens écoutent quand même généralement.
Vous, précisément, vous êtes allé vous procurer un stock d'eau, de pâtes, etc. Est-ce que vous êtes allé faire des réserves, comme un certain nombre aujourd'hui d'habitants sur place effrayés ?
Alors oui, depuis hier. Alors pour double raison. Bon, la première, c'est déjà ça, il faut limiter les sorties. Mais la deuxième, vous pensez que c'est quand même le nouvel an chinois. C'est la principale fête en Chine dans l'année. Donc les gens ont décidé de rester chez eux et de passer le nouvel an en famille chez eux. Donc les grands magasins, tout ça, ont tous été dévalisés.
Ça veut dire que les étals sont vides à ce stade ?
Tout à fait, il y a beaucoup d'étals qui sont vides. Bon, après, il reste encore beaucoup de produits, hein. C'est très bien approvisionné. On voit tout de suite qu'il y a quand même eu une grande rasure.
Philippe Usan, que sait-on aujourd'hui de ce marché aux poissons, marché aux fruits de mer, marché d'animaux vivants également, d'où serait parti ce coronavirus ? Sait-on s'il a été fermé ?
Ce marché est fermé et toujours en cours de désinfection. Il faut savoir que c'est le principal marché qui fournit toute la restauration, qui fournit les hôtels, c'est là où tout le monde vient acheter. Donc ce n'est pas un tout petit marché, c'est vraiment un très très gros marché. Mais à l'heure actuelle, il est complètement fermé.
Et on parle d'un hôpital, les images d'un incroyable chantier, la Chine qui a engagé, ça y est, la construction d'un établissement hospitalier destiné à accueillir d'ici 10 jours 1 million de patients victimes du coronavirus. Est-ce que vous le voyez déjà sortir de terre ?
Alors, c'est pas qu'il sort de terre, c'est qu'il est en cours. Ça va très très vite. En Chine, ils sont capables en un mois de faire un établissement, on va dire précaire comme ça. Ça va aller très 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 vite.
Cet établissement hospitalier qui doit permettre d'accueillir 1 millier de lits et doit être achevé dans 10 jours. Merci beaucoup Philippe Usan de nous avoir répondu ce soir depuis Wuhan, cette métropole chinoise au cœur de l'épidémie de coronavirus. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
Votre grand journal sur Europe 1 avec la suite du programme, Nathalie Lévy.
La suite du programme, ce sont les grandes voix du vendredi qui vont s'installer dans quelques minutes dans ce studio. On va revenir sur la réforme des retraites présentée ce matin et adoptée en Conseil des ministres. La mobilisation qui s'en est suivie à Paris, un peu partout en France également, mais quand même considérablement en baisse de régime, même si les chiffres côté CGT, côté intérieur sont évidemment très différents. Et puis Emmanuel Macron dans l'avion de retour de Jérusalem a été pour le moins prolixe sur la situation en France et sur la violence consécutive à ces mobilisations depuis plus d'un mois maintenant. On revient sur ces déclarations, on entendra le chef de l'État et on en débat avec nos grandes voix et vous au 39-21 qui nous êtes fidèles chaque soir.
Mais vous pouvez également réagir à ces sujets sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On lit vos messages en direct. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Les grandes voix s'installent et dans l'intervalle, c'est votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
3 Français et 1 Irakien, membres de l'association SOS Chrétiens d'Orient, portés disparus en Irak. L'association dit ce soir avoir perdu tout contact avec eux depuis leur arrivée à Bagdad. On y revient avec toutes nos informations dès le début du journal de 19h. La réforme des retraites adoptée aujourd'hui en Conseil des ministres. La CGT revendique plus d'un million de manifestants partout en France, 249 000 estime le ministère de l'Intérieur, dont 31 000 à Paris. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation mercredi prochain, mais la CFE-CGC n'y participera pas. Elle suspend ses actions. Impatience aux surveillances à Bordeaux, en attendant de vérifier une possible contamination au coronavirus. L'homme s'est présenté de lui-même à l'hôpital en présentant de la fièvre et une toux. Il revient de Chine et a été en contact avec des habitants de Wuhan. Il projetait des attentats imminents contre la base navale de Brest, notamment. Les 7 suspects arrêtés lundi dans le Finistère sont présentés à un juge. 500 kilos de cocaïne découverts dans un chargement de bananes au marché de Rungis. La cargaison venait de Colombie. Une enquête a été ouverte. Et puis la NBA qui débarque à Paris ce soir. Grande première, un match du championnat américain de basket à Bercy, Accor Hotel Arena. La meilleure équipe du moment, Milwaukee, face aux Charlotte Hornets, où évolue le français Nicolas Batum. Énorme engouement. On y sera bien sûr dans le journal de 19h. À tout à l'heure.
Merci Sébastien. Le retour de l'info avec vous et du côté du ciel, de la grisaille annoncée pour demain, Anissa.
Oui, il va falloir être prudent dans certaines régions demain si vous prenez la route tôt le matin sur un bon tiers nord de la France, sur les pays de la Loire, la Basse-Normandie, l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne. Si vous nous écoutez dans l'une de ces régions, bien soyez prudents parce que les brumes et les brouillards seront nombreux, épais et surtout tenaces, surtout à l'est. Voilà, des brouillards qui pourraient résister une bonne partie de la journée. En Bretagne et au sud-est, sur le Languedoc-Roussillon et les Bouches-du-Rhône, et bien là, c'est la pluie qui va rythmer votre journée. Partout ailleurs, le temps reste sec, avec même à l'est de belles éclaircies demain. Les températures, moins 4 à 10 degrés le matin, de Charleville-Mézières jusqu'à Marseille. Et puis dans l'après-midi, 6 à 15, 6 pour Lille, 8 pour Paris, 11 à Valence et 14 à Bordeaux.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix avec autour de vous Nathalie Lévy, ce soir Mickaël Darmon, Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique, et Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue dans ce rendez-vous des grandes voix du vendredi. Merci d'être là. Et ben voilà, on a fait les totos et évidemment ils diffèrent. Évidemment, parce que CGT et ministère de l'Intérieur, les chiffres sont toujours très différents. 7e journée nationale depuis le début du mouvement contre les retraites. Alors quand même, petit regain de mobilisation, mais à la marge, hein, si je puis dire. La CGT a compté 1,3 million de manifestants, dont à peu près 400 000 dans la capitale. Bon, c'était un coup pour rien, c'était le barreau d'honneur. On va donner la parole à Alexandre Malafaï qui nous rejoint pour la première fois et bienvenue à vous.
Bonsoir, merci beaucoup. Moi, je retiens deux chiffres en fait, 51 jours et 61%. 61% de l'opinion des Français qui demandent le retrait du texte. Voilà, ça c'est fondamental et je crois que quand même, en démocratie, on parlera peut-être après dictature, mais en démocratie, il est vrai que quand même, on ne soigne pas un malade malgré lui. Et quand un gouvernement est obligé de tordre le bras de sa nation à tous les prix pour faire passer sa réforme, c'est qu'il y a un problème. Voilà,
quand vous parlez de dictature, vous faites référence évidemment au voyage de retour d'Emmanuel Macron. On va y venir dans un instant et on va même l'entendre. Vous pensiez, pardon ?
Non, mais je pense qu'on a de fait un problème de méthode et un problème de calendrier maintenant. C'est quand même très confus. Et la problématique, c'est que vous savez, dans l'inconscient collectif, il y a plein de choses qui se sédimentent. La mémoire collective n'est pas très positive à l'égard des gens qui gouvernent. Et retraite à point, je suis même sûr qu'à un moment donné, les gens se disent « ça fait référence au permis à point ». Vous savez, le permis à points, ça n'a pas été positif pour les gens en France. Hein. Ils se souviennent tous, on se souvient tous ce que ça a pu coûter. Et maintenant, on fait une retraite à points et personne ne comprend rien.
Mais donc,
personne ne comprend le calendrier. Donc voilà, on a un problème de fond.
Bon, alors le 30, on a la grande conférence autour du financement. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On se dit qu'il va y avoir des stigmates de cette réforme des retraites, qu'on va finir par s'en sortir de toute façon. Parce qu'en Europe, ils s'y sont mis. Ils ont repoussé le départ à la retraite de toute façon. C'est inévitable. Alors ok, la méthode n'y est pas, mais on s'en sort quand ?
Ah, on s'en sort quand ?
Non,
alors là, j'aimerais bien vous le dire. Moi, ce que je peux vous dire uniquement, c'est que effectivement, vous avez raison, ce chiffre de 61% de Français qui veulent que Emmanuel Macron retire sa retraite, ça
au
veut dire
51
quoi ?
51 jours de pédagogie, quoi.
Oui, de non-pédagogie. Voilà, c'est ça le problème.
De
évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, dans la bataille de l'opinion, et je parle bien de la bataille de l'opinion publique et pas celle de la rue, les syndicats ont gagné. Parce que les Français ont compris le message des syndicats. Les Français n'ont pas.
Ouais.
Ils n'ont jamais compris.
Sauf que la mobilisation. Pourquoi les Français n'en sentent pas plus dans la rue alors, Mickaël Darmon, par exemple, parce que quand même, les mobilisations, là, on n'y est pas. C'était éparse hein, dans les cortèges un peu partout en France, même à Paris.
Oui, mais enfin, je pense qu'il faut, au fond, arrêter de mesurer l'importance d'une mobilisation au nombre des manifestants. On a bien compris qu'aujourd'hui, c'est totalement baroque entre les chiffres de la CGT et donnés par les pouvoirs publics. Et évidemment, ça n'est pas là que vraiment les choses se passent. La réalité, c'est que, d'ailleurs, là, on n'entend pas du tout la CGT, c'est qu'effectivement, si ce taux de mobilisation dans les sondages auprès de l'opinion reste très important, c'est qu'il existe encore beaucoup et notamment sur l'ensemble du territoire, cette fois-ci, des Français qui considèrent qu'ils sont perdants. Et moi, je veux parler d'une catégorie, de plusieurs catégories que l'on évoque assez peu, en fait, en réalité. Ce sont les indépendants, les avocats, les médecins spécialisés, non pas à Paris, où on a des super honoraires et des super salaires, mais sur l'ensemble du territoire, où ce sont des petits honoraires qui sont donnés. Et là, avec le doublement des cotisations, c'est un carnage.
Et c'est pour ça qu'ils ont multiplié les actions, et les actions coup de poing aussi, et faire tomber sa robe, c'est pas
anodin. négatif, bien dans sûr. Le sens que compter le nombre de CGT qui aujourd'hui réclament que les régimes spéciaux
sont là. Le coût des avocats, par exemple, on n'a jamais vu ça dans ce pays, qui est une profession qui, quand même, en général, est légaliste par nature, qui se met à ce point-là en travers. Mais il faut les comprendre, quand même, pardon. Vous avez, pendant 70 ans, bien géré le bazar qu'on vous a confié. Vous avez 2 milliards de réserves. Et puis, finalement, la punition, entre guillemets, ou la récompense, c'est-à-dire on vous prend votre argent, on vous double vos cotisations, et puis on négocie pas ou quasiment pas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de négociation. C'est quand même compliqué. Mais ce qui est dommage, c'est que si on fait un peu de politique, pas prophétique, mais simplement de pronostic, tout ça va se payer très cher en 2022, parce que tous ces gens-là ne vont pas voter pour les gens qui sont aujourd'hui aux affaires.
Parce qu'ils font souvent partie de l'électorat de Macron.
De Macron, exactement.
Voilà. C'est ce que je vous disais, sauf 61%.
Mais maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça y est, le Parlement, c'est demain, pour ainsi dire.
Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard, honnêtement. Oui. De toute façon, on le fait passer, ce projet. Vous voyez bien, ça va passer en force.
Il va y avoir des discussions.
Le projet, il est édulgoré dans beaucoup de domaines.
C'est ça.
Il y a énormément
de disparités. On parle de 2060.
Et donc, voilà, 2037 pour la première classe d'âge qui va être transformée complètement. Voilà, d'ailleurs, personne ne s'y retrouve. On vous parle, sans vous parler d'un âge de 64 ans, 65 ans. On vous parle de malus, alors qu'on devrait parler de bonus. On devrait encourager les gens pour avoir envie. On leur dit, si vous ne faites pas le job, vous serez puni.
C'est-à-dire qu'on fait passer le projet, on est d'accord, politiquement. C'est-à-dire que là, il a été présenté en Conseil des ministres, il va passer à l'Assemblée. On nous annonce 3000 amendements et certainement qu'on aura droit à d'âpres discussions, d'âpres débats. Très bien. Mais effectivement, en parallèle, il faut continuer à expliquer ce qui n'a jamais été fait.
Parce qu'on appelle un Parlement avec un débat.
Mais c'est avant qu'on explique, avec des amendements,
le débat parlementaire, la manière dont effectivement souvent on peut s'attendre à ce que certains points de la réforme soient amendés sous l'effet du travail justement de l'amendement. Eh bien, une nouvelle période commence là.
Moi, ce que je crains surtout, c'est qu'on se retrouve en fait en 2022 avec une offre politique qui va faire tout pour démonter, comme ça a été fait par le passé, ce qui aurait été proposé.
On continue juste après une toute petite minute. On se retrouve et on entendra aussi Emmanuel Macron dans l'avion de retour de Jérusalem hier.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Mickaël Darmon, Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique, et Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia.
Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on reste encore un instant sur cette réforme des retraites entre syndicats et gouvernement. Ça a été aussi la bataille des mots ce matin. On essaie comme on peut de faire avaler la pilule du côté du gouvernement, tandis qu'il y a ces nouvelles mobilisations et appels à mobilisation dès la semaine prochaine, le 29 notamment. D'ailleurs, jusqu'à quand on va avoir droit, enfin, on a vu que ça fonctionnait maintenant par à-coup avec des coupures comme ça intempestives de courant ou d'autres. C'est ce vers quoi on tend, parce que si les mobilisations massives comme aujourd'hui ou comme avant n'ont moins fonctionné, on va aller vers ça continuellement.
C'est ce qu'on appelle la guérilla, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans tous les pays dans lesquels vous avez un régime un peu trop autoritaire comme tel, et ou en situation de guerre, où les peuples, les peuples à un moment donné,
on tend à ça.
Non mais attendez, ils inventent des nouvelles formes de résistance, et c'est de la symétrie, c'est de la guérilla, et on se défend comme on peut parce qu'on considère qu'on a quelque chose à défendre. Et là, on est parti pour que ça dure, c'est ça le problème, et que la raison qui consiste à dire on va faire cette réforme parce qu'elle est bonne pour tout le monde, c'est pas une bonne raison pour l'imposer, pour faire en sorte qu'on dure pendant comme ça 3 mois, 6 mois.
Alors moi, je vais être un tout petit peu moins anxiogène, parce que là, on est à la veille du week-end. Il me semble que dans un conflit social, il y a une porte de sortie possible. Il ne faut jamais mépriser son adversaire et le laisser sortir de ce conflit la tête haute. Donc, le gouvernement doit donner et montrer une porte de sortie honorable pour les syndicats tels que la CGT, FO, ceux qui étaient réfractaires, et pour les grévistes. Parce que dire aux grévistes, écoutez les cocos... Il faut qu'ils trouvent. Oui. C'est l'exécutif de trouver.
Pour qu'ils puissent sortir, pour qu'ils soient encore entrés quelque part. Ils ne participent pas aux discussions, ils ne signent jamais rien. Ils sont dans le non absolu. Donc, de ce point de vue-là, ce ne sont pas des démonstrations de force depuis quelques jours, ce sont des démonstrations de faiblesse. C'est la fin de conflit. Et d'une part, et en plus, ce sont les radicaux qui font pression à l'intérieur de ces syndicats pour dire et leur signifier leur mécontentement et leur désarroi auprès de la direction en disant bah, on sait que c'est terminé, mais on voudrait que vous continuiez. Donc, en fait, ils font pression. Ouais, ça, c'est quand même. On le sent bien.
On le sent bien quand on voit qu'ils appellent le 29 à une nouvelle mobilisation. Le 30-31, ils nous parlent d'action, on ne sait pas comment, quoi, qu'est-ce.
D'abord, ce qu'on disait, souvenez-vous, il y a un mois et demi, avec le phénomène de, on va dire, d'influence des gilets jaunes parmi la base des syndicats. Eh bien, elle est en train de s'avérer, elle est en train de s'appliquer, de se montrer, parce qu'effectivement, ils ne veulent pas lâcher. Mais une fois de plus, ce sont des comportements, vous avez dit le mot exactement tout à l'heure, ce sont des baroudes, c'est-à-dire c'est la fin, un baroud d'honneur, c'est la dernière offensive, et donc à partir de là, on sent bien que ce sont plutôt des démonstrations de faiblesse que de force. Le gouvernement ne va pas changer sa voie.
Et il a tort parce qu'on se grandit à être intelligent, on se grandit
mais
à faire autrement.
Mais il s'est grandi peut-être avec les syndicats réformistes qui veulent travailler avec eux.
Alors n'oublions justement, pas que cette violence...
Il y a des syndicats qui travaillent avec le gouvernement maintenant pour continuer à réguler cette réforme des retraites.
Cette violence, justement, parlons-en. Et parlons-en d'abord en écoutant Emmanuel Macron dans le vol de retour de Jérusalem. Il a livré un certain nombre de déclarations.
Aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où... une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence.
C'est des mots chocs quand même, au micro de Radio J, hein, de nos confrères de Radio J. Je vais évidemment vous faire analyser tout ça, mais on a Jean-Michel qui nous appelle depuis Bordeaux ce soir. Bonsoir à vous, bienvenue Jean-Michel.
Oui. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous vos invités.
Bonsoir.
Écoutez,
bonsoir.
Moi je pense que ce monsieur Macron est quand même un petit peu gonflé. Alors qu'on parle de dictature, je suppose qu'il veut parler des dictatures des républiques bananières. Mais moi j'aimerais qu'on se compare par rapport aux démocraties européennes. Et vous verrez qu'on est bien loin d'un système démocratique. Hein. Ce monsieur se sert de la 5e République, de sa constitution, et n'oublions pas qu'il y a toujours l'article 16. Il s'en sert, autant le général de Gaulle, on comprenait, autant ce monsieur, franchement, il s'en sert très mal. Et tout passer en force comme ça, on est vraiment dans un état de, disons, de mentalité dictatoriale. Hein. Franchement, c'est...
Donc c'est vous renvoyez la patate chaude directement au président de la République, donc...
Ah ouais, attendez. Excusez-moi, quel que soit le truc, moi j'ai jamais vu quelqu'un avec un tel mépris des gens. C'est inimaginable, faut pas s'étonner, on est encore mou dans la rue. Hein.
Merci.
Jamais vu ça, tous les présidents de la 5e avaient une autre aura, excusez-moi.
Merci beaucoup Jean-Michel, depuis Bordeaux, ce soir, on vous salue et on entend la colère. Jean-Michel, il a entendu l'irrespect. Il a entendu une forme comme ça de la part de...
Une forme de mépris.
Mépris,
voilà.
Bah, voilà.
C'est le mot qui revient sans cesse. Et on a beau dire que la communication et l'image restent superficielles, c'est faux. Emmanuel Macron...
Ça trompe pas, hein,
ça l'entache,
le naturel revient au galop.
Ça lui colle comme un sparadrap depuis le début. Il y a ce ressenti, cette impression des Français qui est fondamentale dans le rapport de confiance que le peuple a envers celui qu'il a choisi, certes par voie électorale, pour les gouverner. Quand on n'a plus la confiance du peuple et qu'il y a entre le peuple et soi cette image qui brouille le message, qui brouille tout, qui
mais
brouille les bonnes annonces, qui brouille tout.
Mais il y a une échéance électorale bientôt, Laetitia. On s'en parle dans un instant ?
Bien sûr.
Parce qu'il y a une échéance électorale bientôt, évidemment. Donc tout ça n'est certainement pas gratuit. Alexandre Lafay, Mickaël Darmon, on se retrouve dans un instant.
Allez. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, avec le débat des grandes voix qui se poursuit, très animé ce soir, avec les grandes voix jusqu'à 19h autour de vous. Mickaël Darmon, Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique, et Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia.
Et oui, et on revient sur ces mots, on l'a écouté, Emmanuel Macron, mais je vais reciter cette phrase dans le discours, dans le retour de Jérusalem hier, le discours politique extraordinairement coupable, la France est devenue une dictature, et le président de justifier de ce fait la violence politique et social, très inspiré, Emmanuel Macron, Mickaël Darmon hier, mais très provocateur aussi.
Oui, alors pas tant que ça en l'occurrence.
Ah, non,
ce qui est frappant en fait, entre l'auditeur qu'on vient d'entendre et ce qui a été prononcé, c'est effectivement la distorsion entre les mots que prononce Macron et la manière dont c'est perçu. Mm-hmm. C'est vrai que tout ce qu'il dit aujourd'hui est perçu comme étant, quoi qu'il dise, de l'arrogance, du mépris, de la distance. Et il a un problème aujourd'hui vraiment d'émetteur. Ça, c'est une réalité. Après, ce qu'il a dit sur le fond, Mais moi, je trouve qu'il a entièrement raison. Vraiment, par hommage et par respect à ceux qui subissent la dictature, franchement, la France, certes, ce n'est pas la panacée. Bien sûr. Sait très bien que la Ve République, c'est une monarchie républicaine. Mais enfin, on peut quand même encore dire ce qu'on veut. On n'est pas dispersé et emprisonné dès qu'on se réunit sur une place publique. Et ce n'est pas une dictature. Maintenant, la dernière chose que je remarque, c'est que c'est dans l'évolution de la communication présidentielle. Là, maintenant, on avait les conversations au coin du feu. Maintenant, on les a dans l'avion. Et en fait, on pourrait rebaptiser son avion. Hein. C'est Air of One.
Voilà.
Voilà, c'est joli ça.
C'est pas mal.
Mais c'était pas du off, là, Mickaël.
Il y a du off aussi.
Mais justement, il y a du off aussi. On peut imaginer qu'il n'y a pas que le propos.
C'est pas mal, justement.
C'est pas mal.
Peut-être.
Pour quelqu'un qui ne parle jamais de la France à l'étranger, il a choisi de le faire en déplacé.
Jamais été aussi prolixe.
C'est ça, dans les airs. Hors vraiment territoire.
Alors, évidemment, les réactions, on va en livrer deux. Par exemple, celle de Jean-Luc Mélenchon. On l'attendait. C'est le seul responsable, Emmanuel Macron, de toute cette violence. Ségolène Royal, qui en ce moment lâche ses coups. Chaque jour, elle était hier soir à mon micro. Là, elle qualifie le pouvoir de régime autoritaire. Donc,
comme
elle
monsieur.
Comme vous, Alexandre Lafaille.
Oui, vous avez. Moi, le problème, en fait, à mon avis, c'est que je pense que cette phrase, cette saillie, si je veux dire présidentielle, confirme que le président de la République n'a pas tout à fait compris ce qu'était la démocratie. Elle ne repose pas sur la raison. La démocratie, c'est un équilibre subtil qui s'appuie sur un mot-clé ou sur un verbe-clé qui est consentir. Est-ce qu'on consent à participer, à accepter le bon, le moins bon, etc. Est-ce qu'on consent ? Et si on ne consent pas, l'autre verbe, c'est subir. Et subir, c'est ce qu'on est quand on est dans une dictature. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui en France, eh bien, vous avez le sentiment de subir. Subir le changement, subir la transformation, subir l'autorité du pouvoir, subir. Et ça ne peut pas marcher pendant très longtemps.
Oui, mais le pouvoir vous répond qu'il a été élu.
Oui, mais justement, c'est le deuxième point de ma petite démonstration. Ouais. C'est que quand vous êtes élu et que votre socle électoral repose sur 17% au premier tour, eh bien, vous avez un problème majeur, un vice caché, mais permanent. Dès le départ, un poison. En fait, vous ne pouvez pas dire je suis légitime. Vous avez la légalité pour vous, vous n'avez pas la légitimité pour faire dans la durée.
Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là à ce moment-là, Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il orne clairement vers l'extrême droite ? Est-ce que c'est un discours qui s'adresse à une partie de la France aujourd'hui, cette partie de la France qui s'apprête à voter Marine Le Pen ?
Est-ce que c'est stratégique ? Il a une conviction de base qui ne changera pas jusqu'à la fin de ce mandat. Il croit que c'est par le travail que tout va se régler. Est-ce peut-être la faiblesse de sa démonstration parce que tout n'est pas réduit au travail, notamment les grandes questions de société, mais le point de base de son entrée en politique, de sa réflexion pour arriver au pouvoir, c'est de dire il faut faire en sorte que la France revienne dans le travail et que par le travail tout va pouvoir se lisser les gens vont pouvoir s'émanciper.
Parce que bien sûr, Mickaël, mais ça de la part d'un pouvoir qui n'écoute pas le travail, oui, mais de la part d'un pouvoir qui lui n'écoute pas la rue, qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'est pas dans le dialogue au départ.
Il a écouté des gilets jaunes, il aura même donné des milliards quand il fallait le faire en décembre l'année dernière avec des pouvoirs d'achat. Le budget, également,
le grand débat dans la
comme elles sont, est largement redistributif, des baisses d'impôts massives, des annulations de taxes, il faut aussi le regarder. C'est une réalité. On peut pas dire qu'il est entièrement sur un clan lié à la haute finance et qui n'écoute pas.
Ça, Alexandre Malafaille, il n'est pas sur un clan lié à la haute finance.
Non, mais écoutez, je crois que les Français le comprennent.
Et la valeur
plus.
Travail.
Les Français ne le comprennent plus. Pour bien gouverner, il faut montrer le chemin et montrer l'exemple.
De ce point de vue-là,
le chemin, c'est plus clair. Personne voit le chemin et montrer l'exemple, c'est raté depuis 2 ans. Voilà. Donc, il y a un problème de fond. Donc, une fois qu'on est face à un problème de fond, on se remet en question. C'est pas grave. On peut apprendre en marchant. Beaucoup de gens peuvent encore comprendre dans un pays comme celui-là, qu'on se remet en question. Quand on dit il y a quelques mois, j'ai compris, je change, on va changer de méthode et changer de façon de faire, il n'y a aucun changement. Donc, c'est un problème de méthode. Les Français sont prêts encore à investir un peu de confiance dans les gens qui nous gouvernent, supposer qu'ils s'y prennent bien. On ne s'y prend pas bien. Moi, j'insiste beaucoup sur les méthodes au gouvernement.
C'est là où ça pêche à chaque fois, Laetitia.
Nous avons aussi la responsabilité de dire que ces discours sur cette pseudo-dictature française sont le résultat de l'hystérie des réseaux sociaux qui mettent une loupe grossissante sur une extrême, une des extrêmes dans le pays, qui appelle à l'anarchie, qui appelle à renverser le pouvoir pour des idéaux.
Mais 61% des Français qui rejettent une réforme, c'est pas des minorités.
Parce que Emmanuel Macron a un problème, c'est ce que je disais en amont, effectivement de confiance avec le peuple, parce qu'il n'a pas su raconter et mettre en place son storytelling. Il n'a pas su se raconter et se présenter aux Français. Mais il est dangereux quand même de donner ce porte-voix à tous les extrêmes qui agitent des chiffons rouges.
Il subit une injustice, Macron, c'est qu'il subit quelque part la justesse de son diagnostic. Il dit « je veux régler des problèmes qui n'ont pas été réglés depuis 30 ans ». C'est une démarche historique qui est arrivée à d'autres leaders ailleurs et dans d'autres époques. Celui qui soulève le couvercle se prend la pression à la figure. C'est lui qui se prend effectivement une pression qui vient de très loin.
Mais certes, il y a l'art et la manière, non ?
Je ne suis pas là pour le disculper complètement.
Non, mais c'est intéressant.
Il y a des erreurs de méthode qui sont certainement faites. Mmh. Mais la réalité, quand même, c'est qu'il se saisit de problématiques qui n'ont pas été réglées par les précédents pouvoirs depuis bien longtemps.
Et le mot de la conclusion pour Alexandre Malafaï,
il y a une vraie schizophrénie, parce que quand on écoute le président de la République, quand il est au CESE, il y a 8 jours, au Conseil économique et social, qui l'ouvre et qui pose des diagnostics sur les maux de la société française, et quand on voit la façon dont il gouverne et il s'adresse aux Français, voilà, il y a deux Emmanuel Macron.
Il est handicapé, bon,
ça fait plus qu'un mot, en plus vous y êtes mis à deux. Bon, je vous remercie quand même, les grandes voix du vendredi, c'était parfait. Anne Hidalgo, de 10h à 11h dimanche, elle est chez vous, Michael Darmon, c'est
oui,
ça
Oui, absolument, depuis deux ans et demi qu'elle n'a pas participé à une longue émission politique. Elle sera donc là pour expliquer son projet, puisqu'elle est candidate à sa propre succession.
10h-11h, le grand rendez-vous, c'est sur Europe 1 avec CNews et les Échos. Michael Darmon, donc au boulot. Et merci à vous, les grandes voix. Belle soirée.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy sur Europe 1. La suite, c'est Sébastien Krebs pour le rappel, le journal complet de 19h. La une de l'actualité, cette nouvelle mobilisation de la rue contre la réforme des retraites. Nous serons à Lille, entre autres, pour prendre la température.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir avec la suite du programme, Nathalie.
Alors la politique à 19h10, la réforme des retraites présentée aujourd'hui en Conseil des ministres, adoptée, Aurélie Herbeum reçoit donc pour en parler Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. 19h20, demain en France, dans le monde et dans nos vies avec Europe 1 chaque soir. Et puis 19h30, cette question, la révolution dans les assiettes de nos enfants à la cantine, elle est là, vraiment, bel et bien réelle. C'est peut-être un enjeu des prochaines municipales. Je pose la question à la chef star et conseillère régionale d'Île-de-France, Babette de Rosière. On parlera aussi du salon de l'Outre-mer, avec plein de surprises.
Et vous pouvez bien sûr nous appeler pour réagir en direct à tous ces sujets, 3921 et Twitter, avec le hashtag Europe 1 pour poster vos messages, votre grand journal du soir, avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 19h.
Et le mercredi matin, pas de nouvelles, donc on a alerté les autorités. Nous n'avons reçu aucun signal d'alerte préalable, aucune menace.
Trois Français membres de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient ont disparu à Bagdad avec leurs collaborateurs irakiens. L'association vient tout juste de s'exprimer. Nos informations dans quelques secondes.
Les avocats ne désarment pas. Ils étaient en bonne place dans les cortèges aujourd'hui au moment de l'adoption de la réforme des retraites en Conseil des ministres.
39 000 manifestants à Paris selon le cabinet indépendant Occurrence. Dans ce journal également, Donald Trump marche contre l'avortement à Washington. Et puis les stars du basket à Paris. Énorme engouement pour un match de NBA qui se joue à Bercy ce soir.
Anissa, du côté du ciel.
Alors pour demain, à l'ouest et au sud-est, c'est du gris et de la pluie. Partout ailleurs, des nuages qui vont se partager le ciel avec des éclaircies. Je vous dis le temps qu'il va faire près de chez vous à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Et d'abord donc cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Trois humanitaires français et leurs collaborateurs irakiens ont disparu à Bagdad. Ils font partie de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. Théo Manval, que sait-on ce soir ?
Eh bien, ces quatre salariés, dont trois Français, ont disparu depuis lundi en fin d'après-midi, alors qu'ils quittaient leur hôtel près de l'ambassade de France à Bagdad pour se rendre à un rendez-vous de travail. La direction de l'ONG donne très peu de détails sur leur identité ce soir pour ne pas compromettre leur sécurité. Il s'agit en tout cas de personnel chevronné, formé au risque, nous dit-on, et qui était à Bagdad pour renouveler leur visa, enregistrer l'association auprès des autorités irakiennes, explique Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient.
C'est des personnels expérimentés et qui travaillent depuis plusieurs années avec nous. On essayait de les contacter et donc le mardi, ils étaient très occupés, donc ce n'était pas forcément inquiétant. Et dès le mercredi matin, pas de nouvelles, donc on a alerté les autorités. Nous n'avons reçu aucun signal d'alerte préalable, aucune menace.
Pas non plus de demande de rançon ni de revendication ce soir. Le Quai d'Orsay que nous avons pu joindre assure être en contact étroit avec l'ONG SOS Chrétien d'Orient et mobiliser tous les services de l'État sur place pour tenter de retrouver ces trois ressortissants et leurs collègues irakiens.
Les précisions en direct de Théo Manval pour Europe 1.
Et évidemment, on y reviendra avec les nouveaux développements dans vos prochaines éditions, Sébastien. Septième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, avec ce chiffre pour le cortège parisien, 39 000 manifestants dans la capitale, selon le cabinet indépendant Occurrence.
La CGT revendique 10 fois plus de manifestants et même 1,3 million dans toute la France. Le ministère de l'Intérieur a compté 249 000 manifestants. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation mercredi prochain. La CFE-CGC n'y participera pas. Dans les cortèges, les avocats étaient très présents. Aujourd'hui, ils refusent
toujours le nouveau système qui implique pour eux une augmentation de leurs cotisations.
Au-delà du régime autonome, c'est notre indépendance qui est en danger. Dans une démocratie, l'avocat doit être indépendant, il ne répond qu'aux intérêts de son client. Et notre indépendance, elle est, on se la retrouve aussi dans ce régime autonome et c'est ça qu'on vient défendre aujourd'hui. La colère, il y en a parce que les avocats sont les infirmières d'un service public comme l'hôpital. On tient la perfusion d'une justice qui est moribonde et là, ça commence à bien faire. Donc aujourd'hui, on met à mal les plus petits cabinets avec cette réforme des retraites. Il y a beaucoup de motifs d'insatisfaction et de colère et elles s'expriment aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on partage avec les gens qui sont là. On m'a demandé tout à l'heure s'il y avait beaucoup de différence aujourd'hui entre les revendications. Non, je crois pas. Je crois qu'on partage tous une même colère et le même sentiment de ne pas être entendu. Et ça, c'est assez révélateur.
Jean-Baptiste Dubrulle, le bâtonnier des avocats de Lille, au micro de notre correspondant Lionel Gougelot. La réforme des retraites qui a été formellement adoptée ce matin en Conseil des ministres. Prochaine étape à l'Assemblée, où les députés commenceront à examiner les textes en commission début février.
Les hôpitaux alertés sur les précautions à prendre sur le coronavirus. Un patient, on vous le dit ce soir, est sous surveillance à Bordeaux.
Et un cas suspect, mis à l'isolement en attendant de vérifier une possible contamination à ce virus chinois. L'homme s'est présenté de lui-même à l'hôpital en présentant de la fièvre et une toux. Il revient précisément de Chine et a été en contact avec des habitants de Wuhan.
Cette ville qui est actuellement en quarantaine. Une fusillade aujourd'hui même en Allemagne, 6 morts et 2 blessés graves dans une petite ville près de Stuttgart. Le tireur a été interpellé. Il a visiblement tué des membres de sa famille. On ne connaît pas pour l'instant le mobile.
Aux États-Unis, Donald Trump, plus que jamais en campagne auprès de son électorat très conservateur. Il participe en ce moment même à Washington à une marche contre l'avortement. Bonsoir Xavier Yvon. C'est tout simplement du jamais vu. C'est la première fois qu'un président américain apparaît dans cette manifestation qui a lieu tous les ans.
Exactement. D'ailleurs, Donald Trump a commencé son discours en soulignant cette première. « C'est un grand honneur », a dit le président américain, acclamé par des dizaines de milliers de militants anti-avortement. Et Donald Trump a repris exactement leur terminologie et leur slogan.
« Unborn children have never had a stronger defender in the White House. »
Les bébés à naître n'ont jamais eu un meilleur défenseur que moi à la Maison Blanche, a-t-il dit. Il a cité la Bible, il a accusé les démocrates d'être radicaux sur la question, de vouloir, je le cite, tuer les bébés même juste avant la naissance, ce qui est faux évidemment. Bref, Donald Trump a fait le job et il a été chaleureusement applaudi, mission accomplie. S'il a fait cette apparition inédite, ce n'est pas par conviction, le milliardaire a longtemps été favorable à l'avortement, non. C'est en fait par stratégie électorale. Ce que le président américain est venu chercher cet après-midi sur la grande pelouse du Mall de Washington, c'est le soutien des chrétiens évangéliques pour lesquels l'avortement est un sujet majeur. En 2016, Donald Trump a été élu avec 80% du vote évangélique. Leur soutien est donc indispensable pour sa réélection en novembre, mais il a perdu des points dans cet électorat clé ces derniers mois, notamment parce qu'un grand magazine chrétien l'a accusé d'être, je cite, immoral.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct de New York, et pendant ce temps-là, juste à côté du Capitole, précisément, les sénateurs américains sont en train de reprendre le procès du président américain.
La NBA qui débarque à Paris. Et oui, c'est un énorme événement pour tous les fans de basket.
Parce que c'est une grande première, un match de la saison régulière, le championnat américain de basket à Bercy, à l'Accor Hotel Arena. Bonsoir Axel May.
Bonsoir.
Alors c'est archi complet, les tickets coûtaient d'ailleurs très cher. Les stars de la NBA viennent avec le spectacle, bien sûr. Et alors ils ont apporté leur propre parquet.
Oui, un parquet en bois clair, brillant, de mille feux que les deux équipes ont déjà foulé à l'entraînement hier, vous les entendez. C'est tout le concept NBA qui est importé à Paris. Animation, son et lumière, mascotte. Les organisateurs veulent en donner pour leur argent aux 15 000 privilégiés attendus ce soir à Bercy, avec d'un côté les Bucks, les Serres en français de Milwaukee, et une star connue de tous les fans de NBA, Giannis Antetokounmpo. Né à Athènes, c'est un géant de plus de 2,10 m aux qualités athlétiques hors normes. Son surnom ne trompe pas, le Greek Freak, le monstre grec. Un monstre qui pèse 25 millions de dollars la saison. En face, les Charlotte Hornets, les frelons en français, oui, on aime bien les noms imagés en NBA, où évolue l'un des 11 Frenchies de la Ligue nord-américaine, Nicolas Batum.
C'est un moment quand même assez émouvant dans une carrière. En tant que joueur non-américain, de faire un match NBA dans son propre pays, c'est un match officiel. C'est la première fois que ça arrive en France et d'être le premier à faire ça, c'est en particulier assez fier de ça, ouais.
Les Charlotte Hornets, c'est aussi là où Tony Parker a terminé sa carrière l'an dernier. Un club propriété d'un certain Michael Jordan, vie légende, sera à Bercy ce soir. Quant aux journalistes, ils sont si nombreux que tous n'auront pas une place dans l'aréna. Certains devront regarder le match depuis les télévisions dans une salle annexe.
Voilà, il y aura du monde et c'est très sérieux, hein, Axel. Mais donc le parquet français, visiblement, n'est pas à la hauteur de la NBA.
Il fallait ça, au standard fait. NBA.
Voilà. Ouais, bah, voilà, le message est passé. Merci Sébastien Krebs, merci à vous. On se retrouve tout à l'heure avec de nouvelles infos et on a encore de la pluie pour demain. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, effectivement, encore de la pluie, Nathalie. Bon, de la petite pluie, hein, pas la pluie que nous avons eue sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude ces derniers jours. Alors demain, c'est Languedoc-Roussillon qui est concerné, même jusque sur les Bouches-du-Rhône. Voilà, si vous habitez dans le sud-est, demain, le ciel sera couvert avec des gouttes de pluie tout au long de la journée. Sur la Corse, le temps est sec avec des éclaircies. Et puis à l'ouest, vous ne serez pas épargné non plus. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire, même jusqu'en Vendée, les nuages sont nombreux demain matin et ils vont vous apporter des gouttes de pluie dans l'après-midi. Partout ailleurs, entre le sud-est et entre la Bretagne, partout ailleurs, c'est un temps sec, assez nuageux tout de même. Puis attention, dans le nord-est et sur le nord-Pas-de-Calais, il y a des brumes et des brouillards le matin qui resteront assez tenaces dans l'après-midi. Donc prudent si vous devez prendre la route. Moins 4 degrés à Charleville-Mézières, c'est frais. Moins 2 à Lille, moins 1 à Clermont-Ferrand, 2 pour Paris, 8 à Marseille. Et puis au meilleur de la journée, il va faire frais dans le nord. 6 à Lille, 8 pour Nancy et Paris, 13 degrés à Nîmes et jusqu'à 15 à Marseille. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Et avec l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Nathalie.
Et votre invité ce soir.
Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. La réforme des retraites est passée en Conseil des ministres, mais la rue ne désarme pas.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et tout de suite place à l'interview politique.
D'Aurélie Herbemont avec votre invité ce soir, Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Bonsoir Olivier Dussopt.
Bonsoir.
Avant d'être ministre, vous étiez au Parti Socialiste. Que répondez-vous à votre ancienne camarade Ségolène Royal qui considère qu'on est dans un régime autoritaire?
Je trouve que les mots sont outranciers et je trouve que, comme d'autres, elle participe ainsi à banaliser l'expression de mots exagérés, de formules qui sont outrancières, et que ça participe aussi à une forme de banalisation de la violence sur la scène politique et dans les mobilisations. Je trouve ça, vous l'avez compris, assez irresponsable, et cela vient finalement confirmer le fait que lorsqu'on tient de tels propos, lorsqu'on tient de telles positions, on ne peut plus exercer de fonction au nom du gouvernement français.
D'accord, oui, donc vous justifiez effectivement son limogeage ce matin au Conseil des ministres.
Quand on est ambassadeur, on porte la voix de l'État et la politique du gouvernement, et il y a un certain nombre de principes dont celui de la loyauté et celui de l'engagement. Donc ça n'est pas compatible avec des propos politiques.
Alors Ségolène Royal dénonce une réforme des retraites engagée de manière autocratique, le mot là aussi est fort. Et un autre de vos anciens camarades, Jean-Luc Mélenchon, il dit lui que la violence est du côté du pouvoir, il parle de comportement monarchique, j'imagine que là aussi vous êtes choqué par ses propos.
C'est outrancier et je le répète, je suis assez désespéré de voir un certain nombre de responsables politiques qui n'ont gardé l'expression que le mot politique et pas le mot responsabilité. Nous sommes dans une société qui se radicalise, où la violence se banalise, où il y a des comportements, des remises en cause de la légitimité démocratique et des institutions. Et lorsqu'on est un responsable politique, on a le devoir de veiller à cette concorde et à la sécurité. Je suis assez effaré de voir que, après des actes de violence, violence contre des biens, violence contre des personnes, coupures de courant, ils sont très peu nombreux sur la scène politique, dans les partis dits de gouvernement, à exprimer leur condamnation. Il faut que le gouvernement le fasse, nous le faisons, la majorité le fait. Parfois, nous nous sentons un peu seuls à condamner ce type de violence.
Vous considérez effectivement qu'ils attisent la violence
et la désinhibent.
Il y avait une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites, avec un peu plus de monde que la dernière fois. 249 000 personnes dans les rues aujourd'hui selon la police, 1,3 million selon la CGT. Il y aura une nouvelle journée d'action mercredi prochain. Ce rebond vous inquiète?
Non, nous sommes toujours sur une mobilisation qui doit être entendue, à laquelle nous faisons attention, mais qui reste sur des mouvements relativement bas. Il y a d'autres indicateurs.
Relativement bas, d'accord.
Il y a d'autres indicateurs. Je pense notamment au taux de grève dans la fonction publique, qui aujourd'hui est très légèrement supérieur à 4%, à comparer avec les 26% du 5 décembre. Et c'est une baisse continue de cette mobilisation. Ça ne signifie pas qu'il faut crier victoire. Il faut continuer à entendre un certain nombre de messages, d'apporter des réponses. Je pense que l'examen du texte par le Conseil des ministres ce matin, le fait qu'il soit ensuite examiné par les commissions, le fait que nous travaillons avec toutes les organisations syndicales qui le souhaitent, qui souhaitent avancer sur des questions aussi importantes que la pénibilité, que l'aménagement des fins de carrière et l'emploi des seniors. Des questions aussi importantes que la manière dont on organise la transition et dont on garantit les droits des assurés du système de retraite. Tout ça est de nature à apporter des réponses.
Vous espérez encore pouvoir convaincre, même si des gens sont mobilisés depuis plus d'un mois et demi.
Bien sûr, et le rôle d'un gouvernement est à la fois de convaincre, de défendre une réforme qui est une bonne réforme, qui est une réforme plus
redistribuée. Tout le monde n'en est pas convaincu, visiblement.
Oui, et j'invite d'ailleurs à lire d'autres propos, d'autres écrits que les nôtres, puisqu'il faut avoir aussi des tiers qu'on va qualifier de tiers de confiance. Il y a un certain nombre d'études qui sortent actuellement et qui expliquent que cette réforme sera plus redistributrice, qu'elle sera plus solidaire. Nous ne sommes pas seuls à le dire, la CFDT l'avait dit, et nous allons faire en sorte qu'avec ce système universel, il y ait de la lisibilité, il y ait de la durabilité, de la solidité du système, mais il y a aussi qu'il y ait plus de justice en faveur de ceux qui ont des carrières précaires ou hachées.
Alors, vous vous occupez spécifiquement des fonctionnaires, Olivier Dussopt. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question très précise pour ceux qui sont nés entre 1975 et 2003 et qui auront donc une carrière à cheval entre le système actuel et le futur régime universel. Ils réclament, comme pour la SNCF et la RATP, ce qu'on appelle la clause à l'italienne, c'est-à-dire que leur pension soit calculée comme dans le système actuel sur les 6 derniers mois de salaire. Est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause?
Il y a plusieurs hypothèses de travail. Une première hypothèse consiste à faire une photographie de la carrière des agents publics au moment où ils changent de système, normalement le 31 décembre 2024. Mmh. Et puis à additionner à la fin de leur carrière professionnelle cette première partie acquise et puis la partie ensuite cotisée dans le nouveau système. Le rapport de Jean-Paul Delevoye, et pardonnez-moi c'est un peu technique, avait proposé de faire une photographie décalée en tenant compte de 3 ans ou 6 ans supplémentaires en termes de projection pour tenir compte d'un éventuel, enfin, d'un très certain même, avancement d'échelon, puisque la durée d'avancer, le délai pardon, pour avancer d'un échelon est de 3 ans. Il y a enfin une hypothèse que vous avez qualifiée de clause à l'italienne. En termes techniques, on parle d'affiliation, de régime d'affiliation successive.
D'accord.
Qui consiste à là aussi geler les droits au 31 décembre 2024. Mais lorsque l'agent liquidera ses droits à la retraite lors de son départ à la retraite, de faire une projection pour voir comment ses droits ont évolué.
Et ils ont peur d'y perdre aujourd'hui les fonctionnaires.
Nous, notre engagement, c'est de faire en sorte que les droits acquis soient parfaitement conservés et soient parfaitement garantis. Donc aujourd'hui, nous travaillons.
C'est un scénario que vous étudiez en tout cas.
Nous l'étudions et j'ai noté que l'intégralité des organisations syndicales, et je le répète, celles qui acceptent de participer aux discussions et d'être constructives pour garantir le droit des agents.
La CFDT et l'UNSA, notamment, disent, elles comptent sur vous pour... elles ont compris, quand elles vous ont vu en début de semaine, que vous alliez accéder à cette demande.
Elles ont fait preuve d'unanimité pour la défendre et nous leur avons dit que nous le regardions avec attention.
Regardez avec attention et donc à suivre aux prochains épisodes. Autre sujet sur lequel vous travaillez, c'est la pénibilité. Est-ce que, prenons le cas d'infirmières ou d'aides-soignants qui sont à l'hôpital public, est-ce qu'ils pourront partir plus tôt à la retraite avant 62 ans grâce à des critères de pénibilité quand ils travaillent la nuit notamment?
Pardonnez-moi d'être à nouveau technique, mais aujourd'hui la situation des infirmiers et la situation des aides-soignants n'est pas la même. Il y a quelques années, l'État a proposé, c'était un autre gouvernement, mais nous tenons la parole de l'État, a proposé aux infirmiers qui étaient alors catégorie B et qui bénéficiaient d'un départ anticipé de 5 ans, de passer en catégorie A et donc d'être un peu mieux rémunérés, mais de perdre le bénéfice du départ anticipé. Certains ont décidé de rester catégorie B pour partir plus tôt. Nous leur garantissons ce droit, quelle que soit leur année de naissance. Les aides-soignants de l'hôpital public sont en situation différente, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle une catégorie active avec un départ anticipé. Et actuellement, Agnès Buzyn travaille avec leurs représentants, les employeurs hospitaliers, pour voir comment tenir compte des difficultés inhérentes au métier d'aide-soignant. Il y a des manipulations de patients, il y a donc des poids relativement lourds à déplacer. Ça n'est pas faire offense aux patients de dire ça, mais c'est leur quotidien. Donc Agnès Buzyn travaille à cela, et nous le faisons en ayant en tête qu'actuellement, il y a aussi des aides-soignants dans le secteur privé qui sont très mal pris en charge par les dispositifs de pénibilité et qui ne bénéficient pas de ce qui existe dans la catégorie
publique. Vous voulez en tout cas avancer sur ces sujets-là.
On veut avancer, on veut trouver une solution et on veut faire en sorte que les aides-soignants du secteur public comme du secteur privé soient traités de la même manière puisque un de nos objectifs est de veiller à ce qu'il y ait le maximum de convergence entre le secteur public et le secteur privé. Vous avez évoqué le travail de nuit. Aujourd'hui, il y a des agents publics qui ne sont pas reconnus comme catégorie active parce que la catégorie active, ça s'applique à un corps, un cadre d'emploi, c'est très administratif, qui sont veilleurs de nuit dans des services de l'État, des préfectures, qui n'ont aucune prise en charge de leur pénibilité. Demain, avec ce que nous mettons en place, ils bénéficieront des dispositifs du compte de prévention.
Eh bien, merci beaucoup, merci. Olivier Dussopt, d'avoir été mon invité. Hélas, nous n'avons pas le temps de poursuivre plus longtemps.
Ça sera pour une prochaine fois.
Une prochaine fois.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
On va se retrouver dans un instant et on va regarder de près, examiner les assiettes de nos enfants. À la cantine, précisément, la révolution dans les cantines scolaires est-elle réellement en marche? On en parle avec la chef star et conseillère régionale d'Île-de-France, Babette de Rosière. Puis le salon de l'Outre-mer aussi, on va passer en mode week-end. On va déguster un
petit
peu.
Vous pouvez vous aussi réagir à ces sujets, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h30 Europe 1 qui vous propose de prendre un temps d'avance et de regarder ce qui va se passer demain, Nathalie Lévy.
Et oui, on écoute le monde changer à cette heure-ci, pas seulement d'ailleurs, mais partons en France, tiens, pour démarrer. Rejoindre Nathalie Chevance pour parler restauration. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondante à Marseille où s'ouvre ce week-end le salon Food in Sud, un salon qui s'adresse aux professionnels pour plancher sur les tendances méditerranéennes de demain avec un gros plan là sur le snacking. Le marché est même en train d'exploser, c'est ça ?
Oui, complètement. Chiffre à l'appui, la restauration rapide, c'est un marché de plus de 19 milliards d'euros en France avec 41 000 points de vente. Mais on est loin, très loin du jambon beurre ou du kebab. Ce qui va cartonner de plus en plus, c'est le snacking chic, une montée en gamme dans l'assiette avec tout ce qui va autour. Terminer le fast-food où on est mal assis, les cuisines s'installent désormais dans des concept stores avec au fourneau de vrais chefs comme Thomas Lefebvre aux deux comptoirs. Il cuisine et sert les clients dans un magasin de vêtements de jeunes créateurs. La vaisselle, l'emballage sont écolos, recyclables, avec une règle, manger vite ne veut plus dire manger mal. Et dans le sandwich, il y a des recettes marseillaises.
Le snacking de demain, je pense que c'est des produits de qualité. J'ai uniquement des produits de saison. Tous mes fruits et légumes viennent du marché de Noailles. J'achète que des produits français. J'ai aucun produit préparé. J'ai pas de congélateur. Notre pain 100% bio qui a un coût plus important qu'une baguette surgelée, clairement.
Et là, qu'est-ce qui mijote là? Il y a du poulpe qui mijote?
Donc là, oui, là, je suis en train de préparer un poulpe qui a de l'ail, des oignons rouges, du persil, le poulpe dans le sandwich avec une petite sauce, une crème de sésame. C'est quelque chose qu'on sur le pouce en fait. Donc vous pouvez le manger sur place, vous l'emportez directement à votre bureau et vous aurez quand même ce goût qui vous donne envie de dire que c'est un plat, que c'est pas juste un sandwich.
C'est un peu bobo quand même.
Clairement.
Voilà, c'est complètement assumé, mais c'est un vrai marché. À 14 euros le panier moyen quand même. On fait pas ça tous les jours. Clientèle visée, urbaine et de bureau qui avec ses tickets resto s'offre un petit plaisir en moyenne deux fois par semaine.
Ah bah oui, c'est quand même pas mal. C'est bonbo, a dit Didier François, vous l'avez peut-être entendu, mais oui, on aime bien. Merci beaucoup Nathalie Chevance quand même. Hein. On valide.
Sans
on valide.
Le
Bienvenue Didier François. Demain dans le monde, c'est chaque soir avec vous. Avec cette décision cruciale que doit prendre le gouvernement britannique, en fait, sur le fait de savoir si le Royaume-Uni fera ou non appel au géant chinois de la téléphonie Huawei, hein, évidemment, oui. On parle de Huawei, le géant, pour équiper tout le Royaume-Uni en technologie 5G.
Alors effectivement, la décision doit être prise ce week-end, annoncée la semaine prochaine, et l'enjeu est énorme. Ah oui. Alors, pas seulement du point de vue économique d'ailleurs, mais avant tout d'un point de vue de sécurité, parce que celui qui contrôlera cette nouvelle technologie aura de fait la mainmise sur l'ensemble des flux de communication, que ce soit en Europe ou entre l'Europe et les États-Unis. La question est tellement sensible que Washington exerce depuis des mois une pression maximum sur la Grande-Bretagne pour qu'elle ne cède pas aux sirènes de la collaboration avec l'entreprise chinoise, dont les services occidentaux ont la certitude que ses liens organiques avec l'appareil sécuritaire en font un redoutable réseau d'espionnage à la solde de Pékin. Et à tel point que Washington a carrément prévenu Londres que si un accord était signé avec Huawei, la CIA, la NSA, le FBI et toutes les agences américaines arrêteraient immédiatement le partage du renseignement avec les services britanniques. Alors, ce qui leur porterait un coup terrible quand on connaît le niveau de coopération exceptionnel qui lie les deux pays depuis la Seconde Guerre mondiale.
Bon, mais attendez, ok, on dit tout ça, on prend les précautions du jazz, mais est-ce qu'il y a une alternative à Huawei?
Alors, pas sur étagère. Il existe un projet européen autour des entreprises suédoises Ericsson et finlandaises Nokia, qui a pour l'instant environ un an de retard sur les Chinois, mais qui peut être rattrapé très rapidement si tous les pays européens investissent dans cette initiative. Et c'est bien ça l'enjeu, avoir une réponse commune qui permette de préserver notre indépendance stratégique. Le problème, comme d'habitude en Europe, c'est qu'à chaque fois qu'un pays regarde ses intérêts immédiats, bah, il le fait au détriment de la vision collective. Et c'est sur ce sujet le cas avec l'Allemagne ou la Hongrie qui, comme la Grande-Bretagne, hésite à investir plusieurs milliards dans un projet européen pour développer une technologie qui est déjà maîtrisée par la Chine.
Bon, l'Europe divisée, comme d'habitude, la France juste d'un
La France, position officielle annoncée à la mi-février, mais tous les responsables sécuritaires et politiques
penche pour une option européenne.
Bon, en tout cas, si on dit un mot de la 5G, on voit bien que ce n'est pas accueilli partout de la même manière, avec des ONG hein, désormais qui saisissent la justice pour faire interdire son arrivée là, chez nous, sur le territoire. Merci à vous Didier François. Théophile Cossa, on est ensemble pour Demain dans nos vies. On regarde du côté des élections municipales qui arrivent à grands pas. Et justement, en ce moment, aux États-Unis, on expérimente quoi ? Eh bien, le vote en ligne.
Oui Nathalie, c'est une première dans l'histoire du pays. Des citoyens vont pouvoir voter directement depuis leur smartphone sans passer par le bureau de vote. Ça se passe dans le comté de King, là où se trouve Seattle. Pour l'élection des représentants locaux, 1,2 million d'électeurs qui vont avoir le choix, voter en se rendant à l'isoloir ou voter en ligne.
C'est simplissime le mode d'emploi, ça se passe comment ?
Ça se passe très simplement, il suffit de se connecter à un portail internet via son smartphone. Vous inscrivez votre nom, votre date de naissance, vous remplissez le bulletin de vote, vous signez sur l'écran tactile et le tour est joué.
Et une fois qu'on s'est inscrit, tout le monde sait tout de nous, non ?
Bah, en fait, c'est ça. La question, le sujet, c'est la sécurité. Selon les autorités locales, c'est sécurisé. La signature suffit à détecter les tentatives de fraude ou d'usurpation d'identité. Mais les experts en cybersécurité pointent les risques de cyberattaques. C'est tout le sujet. Un projet similaire à Washington a déjà été avorté après un piratage de grande ampleur. Les défenseurs du vote, eux, avancent l'argument de la participation. Vous savez, aux États-Unis, les élections n'ont pas beaucoup de succès. Imaginez, au dernier scrutin local dans le comté de King, précisément, seulement 1% des électeurs déplacés. Oui. Le vote en ligne pourrait donc augmenter le taux de participation.
Fait. Alors, si on parle de la 5G avec Didier François, on se dit qu'en France, avec vous, le vote en ligne, ça peut arriver demain.
Alors, oui et non. En fait, pour la première fois, les Français de l'étranger vont pouvoir voter en ligne, là, dans quelques mois, pour les élections consulaires. Ce sera en mai prochain. Mais pour l'instant, pas question d'étendre le dispositif à tous les Français, ni à toutes les élections. C'est trop risqué, justement, pour ces risques de cyberattaque. L'urne a encore quelques belles années devant elle.
À voter.
Oui. Merci, il faut aller voter. Merci beaucoup, Théophile Cossa.
À suivre dans votre grand journal du soir pour la prochaine demi-heure, Nathalie Lévy.
On regarde à la loupe, l'assiette de nos enfants
zoom,
à la
quoi.
Cantine. Exactement, voilà, c'était un mix malvenu. La révolution dans leurs plats, leurs recettes, etc. C'est avec Babette de Rosière. Elle est engagée en politique et elle est chef aussi, elle arrive.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy,
votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
A-t-il contracté le coronavirus en Chine ? Un patient est sous surveillance ce soir à Bordeaux. Il s'est présenté de lui-même à l'hôpital avec de la fièvre. Il revient de Chine et a été en contact avec des habitants de Wuhan. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doit s'exprimer sur ce sujet dans les minutes qui viennent. Trois Français et un Irakien, un membre de l'association SOS Chrétiens d'Orient, portés disparus à Bagdad. L'association dit avoir perdu tout contact. Contact avec eux, on sait qu'ils étaient à proximité de l'ambassade de France pour renouveler leur visa. 39 000 manifestants à Paris contre la réforme des retraites, selon le comptage indépendant du cabinet Occurrence. La CGT en revendique 10 fois plus. Le ministère de l'Intérieur a compté 249 000 personnes dans toute la France. La réforme des retraites qui a été adoptée en Conseil des ministres aujourd'hui. Les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation mercredi prochain. Un corps retrouvé au Québec sur les lieux de l'accident de motoneige. 5 Français sont portés disparus depuis mardi sur ce lac où la glace a semble-t-il cédé. Et puis les fans de basket ont les yeux rivés sur l'Accor Hotel Arena à Bercy ce soir qui accueille pour la première fois un match de NBA, le championnat américain. La meilleure équipe du moment, Milwaukee face aux Charlotte Hornets où évolue le Français Nicolas Batum.
Et merci Sébastien, bon week-end à vous.
Bon week-end à vous.
Et Anissa nous dit quoi ? Attention au brouillard demain, c'est ça ?
Oui, effectivement, le week-end va commencer sous la grisaille sur un bon tiers nord de la France. Hein, si vous nous écoutez dans les Pays de la Loire, en Basse-Normandie, dans l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, demain, vous allez vous réveiller avec un ciel très bas, des brumes et des brouillards qui seront assez épais, qui pourront gêner la visibilité si vous prenez la route. Alors, il faut savoir qu'à l'est, ces brouillards vont quand même persister une bonne partie de la journée. En Bretagne et sur le sud-est, sur le Languedoc-Roussillon et les Bouches-du-Rhône, eh bien là, c'est la pluie qui va rythmer votre journée. Partout ailleurs, c'est un temps sec, gris, avec quelques apparitions du soleil. Les températures, moins 4 à 10 degrés demain matin.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et on passe à table ce soir avec nos enfants et une grande chef qui est votre invitée jusqu'à 20h.
Et oui, la chef star Babette de Rosière. Bonsoir Babette.
Bonsoir,
bienvenue. Bah écoutez, ça va bien de vous voir, nous ravis. Et de vous entendre aussi, vous êtes aussi outre chef, on va en parler dans un instant, conseillère régionale d'Île-de-France, oui. L'étiquette Les Républicains.
Absolument.
Alors, on était doublement intéressés de vous avoir ce soir parce qu'on voulait faire un zoom sur les cantines, sur les assiettes de nos enfants. On va bien sûr en parler aussi avec Laurent Terrasson qui est avec nous en ligne, directeur de la publication L'Autre Cuisine. Et puis bien sûr, il y a ce rendez-vous là, le salon d'Outre-mer. Ce sera vendredi prochain.
Vendredi prochain.
Le compte à rebours est enclenché.
Et, voilà.
Et oui, le salon d'Outre-mer pendant 3 jours jusqu'au 2 février. Et on
à la
va
porte de Versailles.
Exactement. On va. Vous allez tout nous dire si vous coupez votre portable parce que ça bip continuellement. Et je crois que ça s'entend
sous les SMS,
oui, vous
Babette.
Harcelez Babette. Alors voilà. D'abord un mot des assiettes de nos enfants. Parce que je sais que vous êtes allés aussi, vous, dans les écoles, dans les établissements scolaires.
Absolument.
Et je voudrais voir où on en est aujourd'hui avec cette loi Egalim. Cette loi, on va le rappeler pour les auditeurs, pour l'équilibre dans le secteur agriculture et alimentation, qui propose, depuis novembre 2018, hein, normalement, les cantines scolaires proposent un menu sans viande une fois par semaine. Est-ce que le compte y est quand vous faites le tour des établissements ?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, parce que je suis allée régulièrement dans les cantines scolaires. Moi, évidemment, à la région Île-de-France, je ne m'occupe que de lycées, mais ça m'arrive d'aller souvent aussi chez les primaires pour voir un peu comment les gens se comportent dans leur assiette. Et il n'y a pas longtemps, c'était la semaine du goût, ça m'a donné l'occasion d'aller visiter plusieurs cantines. Et je me suis rendu compte, moi j'étais très satisfaite, qu'ils font des progrès. Ils équilibrent les assiettes. Les enfants ont tout dans leur assiette. Ils ont une entrée, un plat, un dessert, un laitage, du fromage. C'est vraiment bien équilibré. Et puis j'ai été beaucoup plus loin. Je suis allée voir dans les réserves pour voir un peu ce qu'il y avait.
Est-ce qu'on a du bio aussi?
J'allais y venir.
4% seulement pour la France. Regardez, la France plafonne à 4% d'achats en bio en restauration collective.
C'est dommage.
On est quand même au bout du bout là.
Mais en Île-de-France, ça commence à progresser. Ça commence beaucoup.
Sauf que l'Île-de-France n'est pas la France.
Eh bien, l'Île-de-France, si, c'est la France quand même aussi. C'est un petit morceau de la France. Mais en Île-de-France, il faut pas croire, il y a énormément d'agriculteurs.
On pense
pas à ça,
bien
mais il y a énormément d'agriculteurs. Mais je pense sur un plan général, les parents aussi ont commencé à comprendre qu'il faut faire attention à la santé de leurs enfants et veiller à ce que les enfants mangent équilibré. Veiller à ce que les enfants mangent tout. Parce qu'à l'époque, ce sont des routines, les enfants mangent toujours la même chose. Plus maintenant.
Alors ça commence par la maison, ça se poursuit à l'école, donc c'est ce que vous nous dites. Babette, on va écouter Laurent Terrasson, l'accueillir. Bonsoir, bienvenue.
Oui,
directeur
bonsoir.
De la publication L'Autre Cuisine. Laurent Terrasson, je demandais à Babette, le compte y est. Est-ce que dans les assiettes des enfants dans les cantines, on a aujourd'hui du bio, du vert, du frais et tout ce qui va bien ?
Oui, tout doit s'améliorer. Mais c'est vrai qu'il y a une démarche volontaire pour plus de qualité dans les assiettes. La loi Egalim motive ce secteur de la restauration collective.
Absolument.
Pour faire mieux.
Les collectivités, elles mettent tout leur cœur et tous leurs moyens à l'ouvrage. Il y a la volonté, véritablement, sur tout le territoire.
Je pense que les élus se sont emparés de la question. Je pense que pour eux, il y a la politique alimentaire, c'est important. La politique agricole locale, c'est important. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi avoir un tissu d'approvisionnement locaux, une mise en valeur de leur agriculture.
Par exemple, zoomons sur les élus en Lozère. Eux, ils refusent d'appliquer cette loi Egalim parce que 90% de l'agriculture est liée à l'élevage. Alors comment on fait dans ces endroits-là, typiquement ?
Effectivement, les territoires ne sont pas égaux et je pense que ça, c'est la difficulté. Et beaucoup de personnes proposent une massification, on le voit dans le dernier rapport de Terra Nova. Je pense qu'en fonction des territoires, il faut tout remettre en cause. C'est-à-dire qu'en Île-de-France, ce n'est pas la même chose qu'en Lozère. Effectivement, quand on n'a que de l'élevage, qu'est-ce qu'on fait avec les végétaux ? Est-ce qu'on peut les faire venir d'un département un peu plus loin ? Je pense que tout ça, ça doit s'analyser avec les champs d'agriculture. Ce qui est important, c'est que la restauration collective doit vraiment travailler de concert avec les champs d'agriculture et les agriculteurs.
On se retrouve dans un instant, bien sûr, on se retrouve dans un instant, Laurent Terrasson et Babette de Rosière. Juste d'un mot, en Île-de-France, tous les maires, ils sont OK ?
Pratiquement.
Pratiquement.
Bon. Et il y a même un maire 100%
bio.
Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, le maire de Poissy par exemple, il va beaucoup plus loin parce que les restes, il ne les jette pas. Il donne ça au secours populaire pour pouvoir alimenter les enfants et les pauvres.
Et ça, c'est bien de le signaler.
Bien sûr.
On se retrouve dans une seconde, Babette de Rosière. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h.
Oui.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et son invité, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et son invité gourmand ce soir. Nous allons déguster comme chaque vendredi avant 20h. On parle des sujets également importants, surtout pour nos enfants, avec la chef Babette de Rosière, Nathalie Lévy.
Et oui, qui sera au Salon de l'Outre-mer. C'est son salon de l'Outre-mer. Hein. Ouais. Elle l'a créé il y a 5 ans. On y vient dans un petit instant, Babette. Juste, on reste un instant sur les assiettes de nos enfants à la cantine parce que c'est important. On l'a dit, il y a des exemples de cantines scolaires bio et locales. À Grande-Synthe, par exemple, depuis 2011, à Langouette, depuis 2004, donc ça fait sens, ça commence à avancer, vous nous l'avez dit Babette.
Absolument.
En Ile-de-France, ça bouge aussi. On est aussi avec vous, Laurent Terrasson, directeur de la publication L'Autre Cuisine. Ça va être un enjeu pour ces municipales, les assiettes des cantines scolaires.
Ah bah c'est important.
Laurent Terrasson, je vous laisse répondre et Babette est avec nous jusqu'à 20h, donc on l'écoutera juste après.
Ouais.
Laurent.
Oui, en fait, si vous voulez, on voit tous les élus en fait porter ce sujet oui. Vraiment sur le devant de la scène. Et ce rapport là de Terra Nova qui est sorti, je pense que c'est pas, il est sorti juste avant les municipales.
Oui,
on a vu la presse s'en emparer. Donc il y a quand même une question très politique de l'alimentation dans un secteur quand même. On peut s'étonner puisque la restauration collective, c'est on dit à peu près 3,8 milliards de repas par an, mmh. Alors que, en fait, la population française, c'est 48 milliards de repas. Ça représente 8%. Ouais. Donc, c'est une part très faible. Mais, en fait, la dimension communicative, la dimension qui touche toutes les générations de la restauration collective est très, très forte. Donc, ouais, les gens...
Ça touche à nos enfants. Forcément, ça impacte voilà. Et il y a mobilisation. OK. Donc, voilà. On verra comment c'est pris en main pour ces élections. Merci beaucoup, Laurent Terrasson, directeur de la publication L'Autre Cuisine. Parce que vous êtes engagé aussi. Babette de Rosière, je vous repose la même question. Vous êtes aujourd'hui conseillère régionale Les Républicains en Ile-de-France. Mm-hmm. Comment vous vous engagez sur ce sujet avec Valérie Pécresse, aux côtés de Valérie Pécresse?
De toute façon, j'ai été désignée par Valérie Pécresse mm-hmm. comme déléguée à la gastronomie. C'est par rien. La gastronomie, c'est mon métier.
Bien sûr.
Donc, on peut en parler. De toute façon, je suis très, très, très vigilante tout ce qui concerne la gastronomie à l'école, que ce soit les disciples où vraiment c'est ma délégation, mais aussi surtout en primaire, parce que j'ai remarqué depuis quelque temps, après avoir sonné les cloches quand même à quelques mères, parce que j'ai eu des parents d'élèves qui sont venus me voir sur ma délégation pour me dire qu'il y a des cantines où les enfants mangent congelés, etc. Mmh. C'est, il y a déjà 3 ans de ça, et j'avais fait une action contre ces mairies-là. D'accord. Pour leur dire que c'était important. De toute façon, ils ont intérêt à s'occuper bien des enfants, parce que quand on a les enfants, quand on soigne les enfants, on a aussi les parents. Donc, ça s'est beaucoup amélioré. Et je veux dire aussi qu'on a joué un très grand rôle dans tout ça pour se déplacer personnellement, pour aller voir sur le terrain comment les plateaux se représentaient devant les enfants. Puisqu'il y a des enfants qui tombaient malades, il y a des enfants qui étaient intoxiqués, sans citer les classes. Et depuis, je peux dire, je ne sais pas si c'est un lien avec les municipales, mais je peux dire que là, notamment en région de France, il y a vraiment une prise en compte de tout ce qui est l'alimentation pour enfants. Et je pense que les parents aussi, surtout, parce que les parents aussi, ils payent la cantine et puis c'est fini, mais les parents aussi soignent l'alimentation des enfants parce qu'ils ont compris que c'est une question de santé publique. Parce que si les enfants mangent mal, ça veut dire qu'ils sont en mauvaise santé. Donc on a intérêt au départ d'avoir de très bons produits, de les choisir et de cuisiner parfaitement bon pour que les enfants se portent
donc
bien.
Donc la prise de conscience, elle est là, c'est ce que vous nous dites.
Elle est là,
ce soir,
et ça n'a rien à
Rosière.
Voir, je pense, avec la mairie municipale parce qu'on n'a pas attendu les municipales justement pour soulever ce problème-là.
On rappelle quand même qu'il y a des inégalités forcément selon
forcément,
les régions et ça, on ne peut pas le nier.
Il oui, y a des choses à améliorer, tout n'est pas nickel,
alors,
mais il y a des efforts.
On plonge pratiquement, on s'installe en tout cas au Salon de l'Outre-mer dans une seconde. Ça commence la semaine prochaine, Porte de Versailles, vendredi précisément, jusqu'à dimanche. Vedette, évidemment, Babette de Rosière. Et vedette aussi dans ce studio ce soir avec plein de découvertes culinaires.
Plein de choses.
Je vous conseille de vous brancher sur europe1.fr pour nous suivre en vidéo. Vous allez découvrir un nouveau légume et surtout, vous allez découvrir les plats en vidéo de Babette de Rosière. A tout de suite, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Et vous le savez, c'est une tradition maintenant. Tous les vendredis, avant 20h, on passe à table et on vous fait découvrir plein de bonnes choses. Et votre invitée est toujours là, Nathalie Lévy, Babette de Rosière,
bien sûr, la chef. Et elle est venue avec les bras chargés de superbes recettes.
Bon, hein.
On accueille Marion, également sauveur. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Marion, on va zoomer ensemble sur le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie installé Porte de Versailles à Paris à partir de vendredi prochain. Je vous donne la parole dans une seconde. Juste, Babette, c'est vous qui avez lancé ce salon.
C'est moi,
il y a 5 ans.
Ah, évidemment, il y a 5 ans. J'ai eu l'idée de faire un salon alors que je n'avais jamais fait de salon. Et maintenant, je suis devenue entrepreneuse de salon. Et ça marche très, très bien. D'ailleurs, à l'origine, c'était pour mettre en valeur, évidemment, la culture des Outre-mer, parce qu'on n'en parle jamais.
Ah, c'est ça. Et puis, vous sentiez un peu mis de côté.
Un peu lésé. Et puis, je me suis dit, il faut falloir faire quelque chose pour les mettre en valeur, pour expliquer qu'il y a une culture française, certes, mais nous avons une culture des régions des Outre-mer et que la culture se lie. Évidemment, dans l'assiette, comme toutes les cultures. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit à mon mari, on va créer un salon. Et ils sont ravis, l'ensemble des Outre-mer se retrouve sous le même toit à la porte de Versailles, c'est mon grand bonheur. Et quand vous allez rentrer dans ce salon...
Quel régal, les odeurs et la vue aussi, parce que je dis les odeurs, mais aussi les la odeurs. Vue, parce que j'imagine que la mise en scène
mais
va être...
Mais oui, c'est formidable, parce que j'ai pris un architecte d'intérieur qui... C'est pas une foire, mon salon, c'est vraiment un salon. C'est l'endroit où on se balade, on entend de la belle musique.
On y est, quoi.
On mange tout, on boit tout, on voit des belles filles habillées entre du printemps traditionnel.
On voyage.
Dès qu'on rentre dedans, on pousse la porte. On n'est plus à Paris.
On est ailleurs. On va venir à partir de vendredi prochain jusqu'au 2 février. Voilà. Marion Sauveur, vous aussi, vous nous faites voyager ce soir.
Et
vous nous dites tout, en fait, de ces produits, de ces recettes.
Ben, on va mettre en avant justement cette culture de l'Outre-mer.
Qu'est-ce que c'est ?
Nathalie, est-ce que tu sais ce que c'est ?
Ça ressemble à l'avocat. Voilà, ce que j'explique aux auditeurs qui ne voient pas, c'est qu'on est entre la mangue, physiquement, en tout cas. Et l'avocat.
Ça s'appelle une chayotte en réalité.
C'est la chayotte. On l'appelle chouchou à La Réunion, on l'appelle chouchou à Madagascar, on l'appelle mireton à Haïti et Christophine, parce que c'est Christophe Colomb qui a amené ce produit
aux
chez
Antilles.
Nous en Guadeloupe.
Alors c'est un incontournable, hein, Marion, je crois.
Et oui, un incontournable. En Outre-mer, elle l'a dit, hein, on l'appelle de plein de petits surnoms différents et ça change enfin des acras de morue, des boudins noirs antillais ou du colombo. Alors en fait, ce légume, c'est un cucurbitacé.
Alors voilà.
Famille des courgettes. Hein. C'est très bon pour la santé, faible en calories, riche en potassium, en vitamines, en fibres et il y a une seule graine à l'intérieur.
Absolument.
Contrairement aux courgettes.
C'est un produit que tu peux laisser dans ton fruitier. Ça pousse, ça fait une plante d'appartement. Et si tu mets dans ton jardin,
comme
si
des lianes.
Donc en métropole, c'est possible alors.
C'est possible, mais bien sûr. Et en plus, les feuilles, ça s'appelle les braids. On les mange comme des épinards.
Mais oui, parce que en fait, tout ce qu'on somme dans le chouchou, c'est d'ailleurs c'est bon, ce qu'on dit à La Réunion. Voilà. C'est comme le cochon, tout est bon dans le chouchou.
Tout dedans. On mange tout. On râpe le chouchou comme un concombre et on fait une petite salade de concombre.
Mais attendez, excusez-moi, je ne voudrais pas être de mauvaise augure, mais il n'arrive pas directement de la Guadeloupe.
Mais
il arrive de partout.
Bah oui, non, partout.
Mais c'est ça, soyons précis.
Il est dans tout le département.
Non, mais Marion, je crois que ça vient encore au-delà.
Au départ, ça vient du Mexique. Et c'est Christophe Colomb, effectivement,
qui l'a ramené aux Antilles.
Au moins, il a fait quelque chose, c'est un charlatan.
Et ensuite, il est arrivé à La Réunion. Et effectivement, tout se mange, les racines, les jeunes pousses, les feuilles, même la graîne.
Exactement.
Qui a un petit goût de noisette.
Il faut savoir aussi cuisiner.
Alors, on a une superbe recette, là. Qui nous en parle,
alors,
mesdames?
J'ai fait un gratin. J'ai fait deux recettes, d'ailleurs.
C'est très bon.
J'ai fait un gratin, un peu gratin dauphinois.
Un peu à la française,
mais quand même avec une pointe d'épices. Hein.
Parce que
moi, j'ai une culture des épices, bien sûr, mais des épices douces. Oui. Et puis là, j'ai fait un gratin de Christophine au crabe.
Oui, c'est ça. C'est une Christophine. Il faut imaginer comme un avocat coupé en deux, mais donc la Christophine coupée en deux.
Il faut savoir cuire la Christophine. Parce que la Christophine, c'est comme une éponge, ça boit beaucoup d'eau. Donc il faut savoir cuire tout de suite et après l'éponger et laisser égoutter.
D'accord.
Une fois qu'on a laissé égoutter, on prend une cuillère, on enlève tout ce qui est dedans, la chair, on garde justement la coque. Et avec la chair, on l'assaisonne dans la cocotte avec des épices, des herbes et tout ça. Tu fais revenir la chair. Et une fois
Combien de temps, à peu près
2-3 minutes, ça va très vite parce que la chair est cuite. Et à ce moment-là, on met un petit peu de pain rassis qu'on met dans du lait, qu'on trempe bien, qu'on met dedans
pour absorber un peu plus
et puis donner plus de consistance. Et à la dernière minute, on met le crabe. Et là, on sale, on poivre, on met une petite pointe dessus.
Écoutez, franchement, c'est un bonheur. Je me délecte.
Il y a un peu de piment aussi.
J'ai mis toujours en végétarien.
Marion Sauveur, vous avez d'autres manières de consommer?
Mais oui, il y a plein de manières de le consommer.
Le jus, dites-nous.
Farci. On peut faire une salade également.
Mais tu peux faire la salade.
Une salade toute simple.
Exactement la même méthode que la salade de concombre. Regarde, tu vois. Est-ce qu'on me voit?
Europe.fr.
Tu vois.
On prend la chayotte et on la râpe.
Tu râpes. Voilà, tu râpes bien comme ça. Et puis tu prends une petite vinaigrette, tu mets par-dessus et ça te fait une salade. Tu manges exactement comme une salade de concombre. Et ensuite, le secret, beauté. Parce que ça,
beauté, c'est-à-dire...
tu vois ça.
Et oui.
La pulpe là.
C'est la pulpe qui reste sur la râpe.
Tu prends, tu mets sous la main et tu passes sous la peau.
Un masque pour le visage.
C'est un masque de beauté. Ça te nettoie en profondeur. Et puis, Sachez que pour l'été, si vous voulez être en maillot de bain, c'est l'essentiel de manger de la cristophine parce que c'est bon pour la ligne. C'est 90% d'eau qu'on trouve dans une cristophine.
Et on je vais m'en procurer. Mais où alors, Marion Sauveur? On en procure où?
Mais partout dans les épiceries exotiques et bien sûr au salon de la semaine prochaine.
Bien sûr, mais attendez, juste, j'ai pas entendu parce qu'on est tellement enthousiaste, Marion, dans les épiceries exotiques.
Dans les épiceries exotiques un petit peu partout en France.
Mais aussi dans les supermarchés.
Dans les supermarchés à certains endroits, effectivement.
Alors attendez, on dit de sentir.
Voilà. Et on
ça sent
trouve...
l'herbe fraîchement coupée l'été.
On se croirait dans le
et
jardin.
On le trouve au salon de la gastronomie des Outre-mer, la francophonie, parce qu'il y aura un énorme marché au salon où on trouvera tous les produits des Outre-mer.
Et voilà.
On pourra les acheter pour les consommer aussi et pouvoir manger, déguster, boire plein de choses. Et nous avons un podium d'animation extraordinaire. J'invite la compagnie créole. Et puis, Francky Vincent. Qui viendra fêter ses 40 ans.
On sera dans l'ambiance.
Ah bah,
les yeux, les odeurs.
On aura tous les chefs
C'est magnifique. Il nous reste quelques instants. Alors, on se régale avec vos recettes, Babette et Marion, avec tous ces éléments que vous nous avez.
On peut croquer comme ça, Trudy.
Mais
ça se mange.
Bah oui.
Et ça se mange aussi en version sucrée, d'ailleurs.
C'est-à-dire,
on peut le faire en confiture ou en gâteau.
Absolument.
Le gâteau de chouchou, c'est un gâteau traditionnel à La Réunion.
Parce que. Regarde comment elle déguste, ça me fait
plaisir. Ah bah on a tout mangé.
Voilà, ça c'est fait. Merci, ma mère. Voilà. Mais voyez, en même temps, 19h55, comment faire autrement? Comment résister? Merci, mesdames, c'est magnifique. C'est magnifique pour le goût, c'est magnifique de savoir aussi et de découverte, parce qu'on aime bien l'idée d'avoir comme ça de nouveaux produits. Et juste un mot, l'outre-mer, c'est important. On en a parlé ce soir, on a parlé des cantines scolaires. Si on associe les deux, ça existe ou pas?
Mais ça existe, bien sûr. Mais je voulais quand même te dire qu'il y a tous les chefs. Non seulement ça, il y a une plage chez moi. Il y a un côté pique-nique. Il y a des débats sur l'alimentation, parce que c'est très important, parce que les gens ne consomment pas trop souvent leurs produits locaux. Donc, il y a Yann Kefela qui fait un débat. Il y a Cohen qui fait aussi un débat. C'est très, très, très important. Il faut vraiment venir. Parce
mais vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu, Babette, à ma question.
La billetterie est en ligne.
Bon, voilà. L'outre-mer dans les cantines. L'outre-mer dans les assiettes des cantines scolaires.
Oui, on soigne aussi. Parce que nous mangeons différemment. On a des produits différents, forcément. Mais à la cantine, là-bas, on ne se plaint pas trop.
Et ça, on ne pourrait pas leur en donner. Ici en métropole de ce légume-là.
J'essaie de le faire justement. J'essaie parce que de toute façon, je vais mettre en place à la région Île-de-France un atelier de cuisine où les parents pourront venir s'éduquer en cuisine pour pouvoir mieux faire manger leurs enfants. Et avec ça, bien évidemment, je mettrai en avant quelques produits comme ça, comme la chayotte. Ça coûte pas cher et puis en plus, ça fait du bien à la santé.
Ça coûte pas cher, c'est-à-dire ?
Ça coûte pas cher. Avec 3 euros, tu as 2-3 chayottes.
Là, en métropole, on en trouve dans les commerces.
2 euros à peu près. Voilà.
Très bien.
Et donc, c'est pas mal du tout. Il faut justement regarder des produits des Outre-mer.
On déguste, on va au salon de l'Outre-mer à partir de vendredi prochain, regardez cet hommage.
On est dans l'ambiance.
Francky Vincent, spécial dédicace le 31 au 2 février, le salon de l'Outre-mer, porte de Versailles, si vous avez loupé l'info. Non, ça c'est pas possible.
Et bien, deux nocturnes.
Merci beaucoup, merci Marion Sauveur.
Avec plaisir.
Demain à 11h sur Europe 1, la table des bons vivants, l'émission de Laurent Mariotte, on vous écoute avec Bruno Salomon.
Oui, Bruno Salomon, et on parlera de toutes les astuces culinaires pour bien passer l'hiver.
Ah, parfait, on va écouter doublement. N'est-ce pas,
Émilie
Mazoyer?
Oui,
on vous en a gardé.
Bon, moi, je suis très contente que Babette ait invité la compagnie créole.
Ah ben oui, et puis Francky Vincent aussi.
C'est une super rien dit.
Il y a de l'ambiance, il y aura de l'ambiance.
Décalé Catane.
Ouais, ouais.
Je vais vous laisser.
Et puis, c'est bon pour le moral.
Exactement.
Et puis, puis de la passion.
Émilie, si vous avez encore un peu de ressources, dites-nous ce que vous avez ce soir comme programme.
Ce soir, c'est une jeune femme qui est nommée 2 fois aux Victoires de la musique vendredi prochain, catégorie chanson de l'année, catégorie artiste féminine.
Clara
Luciani.
On connaît qu'elle.
J'adore.
Clara Luciani, elle sera avec nous à 20h30 pour nous parler de son grand succès et puis de la suite.
Ah, évidemment, merci beaucoup Émilie Mazoyer. On écoute, on vous envoie Babette, je suis sûre qu'elle peut chanter avec Clara. Très belle soirée à tous à l'écoute d'Europe 1. Merci de nous être fidèles dans la bonne humeur et dans la précision de l'information, bien sûr. On se retrouve lundi soir, 18h-20h pour votre grand journal du soir. Merci Babette, merci à tous. Très bon week-end. Anissa, on sera là lundi pour
bien
écouter
sûr
ensemble
Le Monde Changé.
À lundi.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.
Europe 1.